Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une ce matin, ça ne passe pas dès le premier tour pour Lula au Brésil. Donné gagnant par les instituts de sondage, les urnes lui donnent une avance beaucoup plus courte que prévu sur le président sortant Jair Bolsonaro. Nous serons sur place dans un instant avec notre correspondant européen. Vous serez tués un par un. Déclaration de Volodymyr Zelensky à l'encontre des soldats russes envoyés en Ukraine. Sur place, la contre-attaque des troupes de Kiev se poursuit. Dernier exemple en date, la ville de Liman, près de Donetsk, elle a été reprise aux Russes. Et puis le blanc quitte ma ville. Racisme, homophobie, menace de mort. Agressé 11 fois en 2 ans, un des adjoints des Mureaux dans les Yvelines démissionne. Ce sentiment d'insécurité est-il partagé par les habitants de la ville? Nous les avons rencontrés.
Europe 1.
Le journal de 5 heures présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous.
Bonjour.
La lutte continue. Les mots de l'ancien président Lula, cette nuit à l'issue du premier tour des élections présidentielles brésiliennes. Face à lui, le président sortant Jair Bolsonaro. Verdict, 48,4% des voix contre 43,2%. On prend la direction du Brésil où on rejoint notre correspondant européen Jean-Claude Gérès. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Claude, les sondages donnaient bel et bien Lula vainqueur. Il arrive en tête de ce premier tour. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que c'est un pari réussi pour lui ?
A luta continua até a vitória final. Esse é o nosso lema. Tá? Nós.
Alors, on devait entendre Jean-Claude Gérès. Est-ce que Jean-Claude est avec nous, correspondant d'Europe 1 au Brésil ?
Eh bien, pas vraiment. En début de soirée, les électeurs de Lula croyaient pourtant en la victoire de leur favori dès le premier tour. Mais l'euphorie a progressivement laissé place à une déception teintée d'amertume. C'est le cas de Raquel, professeure à l'université de Bahia.
Je pensais que Lula allait gagner au premier tour. Donc cette perspective d'un deuxième tour, c'est triste. C'est préoccupant car même si je crois qu'il va gagner au second tour, cette élection montre un peuple brésilien très mauvais.
Du côté des partisans de Bolsonaro, les résultats ont été accueillis avec une certaine satisfaction. Fabricio, la cinquantaine, m'a confié que ces résultats montraient une nouvelle fois le manque d'objectivité des instituts de sondage. Et il s'est dit assez confiant pour la suite. La suite, eh bien, c'est le second tour qui se tiendra le 30 octobre. D'ici là, les candidats vont de nouveau sillonner le pays et tenter de convaincre les électeurs, notamment ceux qui ont voté pour Simone Tebé et Ciro Gomes, qui cumulent à eux deux 7% des suffrages. A priori, Lula devrait bénéficier d'un report de voix favorable. Dans le cas contraire, ses électeurs seraient vraiment déçus.
Merci Jean-Claude Gérès, correspondant européen au Brésil.
La ville de Liman, en Ukraine, est aujourd'hui totalement débarrassée de l'armée russe. C'est ce dont se félicite Volodymyr Zelensky dans sa traditionnelle vidéo quotidienne.
Oui, et pourtant, la ville est située dans la région de Donetsk, annexée par Vladimir Poutine. Vendredi, les Ukrainiens ont contre-attaqué tout le week-end pour avancer dans le Donbass et reprendre leur territoire. Nicolas Tonev, vous êtes le spécialiste européen de la Russie avec ses victoires côté ukrainien. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que cela devient problématique pour la Russie ?
Eh bien, ces progressions militaires fragilisent la situation des zones conquises depuis l'invasion de février et par ricochet, celle des territoires annexés précédemment. La ville de Liman, reprise par les armées de Kiev ce week-end, est un nœud ferroviaire important de la région de Donetsk. Sa perte va entraîner des difficultés d'approvisionnement pour les armées russes, probablement les faire reculer encore et donc permettre aux Ukrainiens de mettre une pression plus forte sur les régions indépendantistes officiellement annexées et poser ce dilemme au Kremlin. Comment entériner par l'illusion d'une vie calme et par une frontière sur le terrain les annonces administratives quand un front n'est pas tenu et les bombardements incessants? Et ce qui est valable pour Donetsk et Luhansk l'est aussi pour Zaporizhia et Kherson. Une problématique reconnue d'ailleurs par le Kremlin qui se pose la question d'annexer seulement les parties conquises ou l'ensemble des deux régions. Selon des estimations américaines, Moscou ne contrôle que 72% de Zaporizhia et environ 88% de Kherson. C'est dire si les dizaines de milliers de recrues de la mobilisation partielle sont très attendues par les officiers russes sur les différents fronts pour concrétiser dans les faits les annonces triomphales de vendredi dernier.
Merci Nicolas Tonev, spécialiste Russie d'Europe 1. La guerre en Ukraine au menu de la rentrée parlementaire, aujourd'hui à 16h, avec une déclaration du gouvernement suivie d'un débat ici en France. Le député Renaissance Pierre-Alexandre Anglade nous explique l'objectif. Il était l'invité hier soir d'Europe 1.
Eh bien, c'est d'abord de montrer que la France agit dans le conflit ukrainien. Quand vous allez à Kiev, on vous explique l'importance notamment des canons César. La France, elle agit en livrant des armes. Elle agit au niveau européen en permettant de garder l'unité des Européens et d'aller plus loin sur les sanctions. Elle agit en apportant une aide humanitaire. Il y a un bateau qui est parti de Marseille à la fin de la semaine passée qui apporte des tonnes et des tonnes d'aide humanitaire, des ponts pour reconstruire les infrastructures. Et donc, ce sera le moment pour la Première ministre, évidemment, de détailler ce que fait le gouvernement français et la France en soutien à l'Ukraine. Mais ce sera aussi un moment de vérité entre les différentes sensibilités à l'Assemblée nationale. Chacun pourra dire clairement ce qu'il pense du conflit en Ukraine. Et au fond, c'est un moment de vérité. Parce qu'il y a beaucoup de familles politiques, le Rassemblement national, la France insoumise, qui ne sont pas claires sur leur position vis-à-vis de l'Ukraine.
Pierre-Alexandre Anglade, invité hier soir de Jacques Seret sur Europe 1.
Le blanc quitte ma ville. Voilà les mots précis qui ont été lancés à Boris Venon. L'un des adjoints au maire des Mureaux dans les Yvelines a été agressé.
Oui, en conséquence, il a démissionné en expliquant avoir subi 11 agressions en 2 ans. Des insultes racistes, homophobes. Il regrette que sa ville ait changé. Les habitants se sentent-ils eux aussi en insécurité? Pour Europe 1, Nina Droff est allée dans la ville des Mureaux dans les Yvelines.
Dans l'avenue commerçante des Mureaux, de nombreux habitants ont bravé le vent pour venir faire leurs emplettes. Quand on leur parle de la démission de Boris Venon, plusieurs, comme Huguette et Fred, avouent se reconnaître dans les propos de l'adjoint.
Ça a changé, il y a moins de civisme.
C'est pas une passion de venir ici, personne ne se dit plus tard je voudrais vivre aux Mureaux. Non, si on vit là parce qu'il faut travailler.
Alice, 68 ans, habite les Mureaux depuis qu'elle est toute petite. Elle ne se sent plus autant à l'aise dans sa ville qu'auparavant.
Des problèmes d'insécurité, des problèmes de... d'arnaque, de trafic, de la délinquance. Ça, je le vois, bien sûr, hein, parce que je ne comprends pas pourquoi à 10h, on voit des petits jeunes dans la rue.
Du côté de la mairie, on entend ces problèmes. Diéna Badiop est adjointe aux relations internationales. Elle appelle l'État à se mobiliser sur ces sujets.
On est face à de l'insécurité. Il y a nombre de victimes qui sont victimes de discrimination, de racisme, de violence. Ce n'est pas propre aux Mureaux et cela doit nous interroger collectivement. Ça se passe aussi par l'appui des services de l'État. Évidemment, il faut des réponses politiques.
L'adjointe réclame également une enquête sur les agressions subies par son collègue.
Nina Droff, le maire PS des Mureaux, a réagi. Ses propos stigmatisent la ville où le vivre ensemble fonctionne. Selon lui, les Mureaux, ce n'est pas ça. Martel François Garret.
Europe 1 5h07, ouvrons maintenant le volet énergétique. Le gouvernement veut accélérer sur le renouvelable pour accroître notre indépendance. Mais cela fonctionne-t-il vraiment?
Eh bien, pour le savoir, je vous propose de prendre la direction de la Bourgogne où un parc éolien a été installé il y a tout juste 10 ans. Évidemment, à l'époque, son installation avait fait grand bruit, mais aujourd'hui, les habitants ne les voient même plus. En prime, ils font des économies. Le reportage près de Dijon pour Europe 1 de Baptiste Morin.
Si l'église des Talentes a pu se refaire une beauté, c'est grâce aux éoliennes. Yvonne, 90 ans, habite en face du clocher et elle en est bien contente.
Ah oui, oui, toutes les gouttières ont été faites, toute la toiture, toute neuve. L'assainissement au pied a été fait, elle est belle. Hein.
En 2012, 23 éoliennes ont vu le jour sur les hauteurs. Elles produisent l'équivalent d'un quart de la consommation de la ville de Dijon. Albert se souvient des tensions suscitées par le projet à l'époque.
Ah, il y avait des réunions, la salle des fêtes, là, assez tendue. Hein.
Et ça s'est terminé comment?
Pas à coup de fusil, quand même. Mais je vous dis, il y en a un qui a quitté le village.
10 ans après, Éric Dudouet, le maire, lui, se veut philosophe.
Dès que quelque chose est nouveau, le français est réfractaire. Là, c'est pareil. Au départ, on n'est pas pour une partie du moins. Finalement, on s'habitue. On les voit tous les jours. Moi, quand je rentre du boulot et que je les vois tourner, je suis content. Je dis, tiens, ça tourne, ça produit.
Il faut dire que les 70 000 euros de revenus annuels générés par le parc ont permis de baisser les impôts de 20%. Et les 9 propriétaires qui ont accueilli une éolienne chez eux reçoivent un loyer. Pierre en compte 3, mais n'ose pas parler d'argent.
C'est une location, oui. C'est un genre de dédommagement. Hein.
Un dédommagement de 4000 euros par éolienne et par an, de quoi convertir aux énergies renouvelables. La commune veut maintenant construire 20 hectares de panneaux solaires au-dessus d'un élevage de moutons.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
Tiens, une réalité qui peut surprendre dans le domaine de la santé. Saviez-vous qu'il existe des kinés spécialisés dans la prise en charge des musiciens?
Oui, et ils soignent des pathologies bien particulières qui leur sont propres. Blocage, crispation, fatigue, lourdeur ou encore manque de rapidité. La plus connue dans le milieu s'appelle Coralie Cousin. C'est la kiné des musiciens. Pour nous, ce matin sur Europe 1, Marie Jiquel a assisté à une séance.
Dans son cabinet, un peu atypique, on trouve à côté de la table d'examen un piano, une harpe et même une contrebasse. Coralie Cousin reçoit ce matin Mélanie, jeune harpiste qui prépare un concours et s'entraîne 4 à 6 heures par jour.
J'avais un début de tendinite et puis on a réglé ça en un petit mois. Mais sans m'arrêter, c'est surtout ça le principal, c'est que notre kiné il m'aurait peut-être obligé à ralentir la cadence ou à m'arrêter complètement.
Une main qui retrouve toute sa dextérité grâce à quelques exercices bien adaptés par la kiné qui a soigné plus de de 3000 musiciens.
La pathologie du musicien est un sujet tabou et la grosse erreur qu'ils font, c'est en général qu'ils augmentent leur temps de travail. Donc c'est très important qu'au niveau de la formation des jeunes, on parle de la douleur comme un sportif de haut niveau.
Ce serait bien qu'on soit un peu plus considéré et qu'on se rende compte qu'on peut avoir nous aussi nos propres blessures.
60€ la séance, considérée comme une pratique plus musicale que médicale, est donc non remboursée ni par la mutuelle ni par la sécurité sociale, et pourtant essentielle aux artistes.
Marie Jiquel.
C'était le journal de 5h sur Europe 1. Merci Alban Leprince.
Presque 5h11, et c'est l'heure de parler des sports, le journal des sports avec Johan Tritz. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
On se réveille avec une nouvelle défaite pour l'Olympique Lyonnais en Ligue 1.
Oui, la quatrième de suite, toute compétition confondue pour l'OL en grande difficulté en ce moment. Les Lyonnais ont perdu 1-0 face à Lens lors de la 9e journée. Ils ont surtout été ultra dominés pendant toute la partie par des Lensois, quatrième du championnat et en réussite depuis le début de la saison. En tout cas, l'entraîneur Francaise en est très content.
Faire un très très gros début de saison, avoir 21 points à la 9e journée, quel que soit le nombre de points qu'on ait d'avance sur Lyon ou sur d'autres, c'est quand même assez énorme et ça prouve la qualité de ce qu'on met en place.
L'entraîneur de Lens, Francaise, au micro de Sébastien Boé.
Mais il n'y avait pas qu'un seul match de Ligue 1, Johan.
Bien vu, Amblin. 6 autres matchs avaient lieu hier avec la victoire de la belle surprise de ce début de saison. Lorient face à Lille 2-1. Les Merlus restent sur le podium au classement. Clermont a battu Ajaccio. Toulouse, Montpellier. Match nul entre Auxerre et Brest et Troyes et Reims. Le carton est pour Monaco. Large vainqueur de Nantes 4-1 avec un triplé de Wissam Ben Yedder. Un capitaine heureux après le match derrière.
Ça a été un très bon match. On a bien entamé le match en étant en haut, en pressant en haut, en récupérant des ballons pour pouvoir être efficace et finir. En marquant très tôt, en marquant vite, ça nous permet à nous de nous mettre en confiance. Voilà, on sort sur de bons résultats en Ligue 1. On continue à progresser petit à petit.
Propos recueillis par Frédéric Hélion. Autres principaux résultats dans les championnats majeurs d'Europe. En Angleterre, Manchester City a écrasé son rival United dans le derby mancunien 6-3. Le Real Madrid en Espagne a été accroché par Osasuna. Benzema a manqué un pénalty.
Il y avait du rugby hier soir aussi.
Un match seulement pour finir cette cinquième journée de top 14 avec la victoire de Toulouse. 19-17 sur la pelouse du champion en titre Montpellier. Toulouse, leader du championnat.
On termine avec les sports mécaniques, Johan.
Avec le Grand Prix de Singapour hier en Formule 1, disputé sous des conditions dantesques avec beaucoup de pluie. C'est Sergio Pérez qui l'emporte. Son coéquipier chez Red Bull, Verstappen, ne termine que 7e et doit encore patienter pour être sacré champion du monde. Et en MotoGP, le suspense pour le titre est bien là, car Fabio Quartararo est désormais sous pression. Le Français, leader du classement des pilotes, a terminé à une décevante 17e place ce week-end en Thaïlande. Le voilà désormais sous la menace de son principal concurrent, Pecco Bagnaia. 3e est revenu à 2 petits points et protégé aussi par Johan Zarco, l'autre Français, 4e et coéquipier de l'Italien sur Ducati.
C'est plaisant de terminer avec des points, une belle place et presque un podium, on va dire, laissé à Pecco.
Et on va savoir dans 3 Grands Prix si Quartararo va garder ou non son titre de champion du monde. Il reste 3 Grands Prix.
Merci Johan Tritz. Les sports sur Europe 1, on passe aux courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Anguin et mon pari gagnant sera le 210 Giuseppe. Titulaire de 7 victoires lors de ses 10 dernières sorties au trot monté, ce trotteur irréprochable depuis le début de l'année trouve une nouvelle fois des conditions idéales pour engranger un nouveau succès. Dès lors, il devrait pouvoir justifier cet après-midi son statut de grandissime favori. Notez bien, pour Anguin, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 10, Giuseppe.
Merci Thierry Léger. On vous retrouve dans une demi-heure sur Europe 1 pour vos pronostics du Quintet. 5h14, très bon éveil à tous. L'histoire dingue d'Anissa Adadi dans un instant. Et bien, c'est un procès très important qui s'ouvre demain pour les fans de la série Game of Thrones. A tout de suite.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Merci d'être avec nous. Bon lundi matin sur Europe 1. Dès votre réveil, c'est l'histoire dingue d'Anissa Adadi.
Une histoire qui va nous faire passer, Anissa, de la fiction à la réalité. Quelle promesse.
Alexandre, Omblin, est-ce que vous reconnaissez ce générique?
Oui,
oui,
je vous la laisse.
Une célèbre série en costume à gros budget, on va
avec
dire.
Des dragons, hein.
avec des dragons.
Vous faites partie des fans de la série de Game of Thrones.
Mais oui.
La série au succès
de dingue. 16,5 millions de téléspectateurs à la télé hein, pour le dernier épisode aux États-Unis. 100 millions de dollars par saison, diffusé dans 173 pays à travers le monde et 38 récompenses aux Emmy Awards. Le succès de cette série est phénoménal, ce qui peut peut-être expliquer l'histoire dingue de ce matin, puisque demain, en Mayenne, à Laval, vous pourrez assister gratuitement au procès de la reine Cersei Lannister.
Incroyable. Qu'est-ce qui peut bien se passer en Mayenne pour qu'il y ait un procès Game of Thrones, c'est en rapport avec le tournage?
Bah, c'est un peu loin de Westeros, la Mayenne.
Ah, ouais, c'est un petit peu loin. Ouais. Même si la série a été tournée dans plusieurs pays et sur 30 sites différents. Non, en fait, c'est plus sérieux qu'un tournage. Demain, les élèves lavallois en droit organisent et animent ce procès. C'est une animation qui entre dans le cadre de la Nuit du Droit, mise en place par le Conseil constitutionnel pour fêter l'anniversaire de la Constitution de la 5e République. Eh oui, c'était le 4 octobre 1958, ça fera 64 ans demain. Le gong de ce procès sera donc donné à 18h. Si vous avez suivi la série, sachez que la reine quand même a été jugée, vous le savez, par le grand moineau dans l'épisode 10 de la saison 6 de Game of Thrones.
Bah oui, elle doit défiler dans les rues.
Voilà, et plus récemment, en 2018, un procès a été organisé par l'association des écoles des jeunes orateurs de l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Cersei Lannister avait été jugée le 24 avril 2019 déjà.
Mais est-ce qu'il y a eu des procès de personnages de fiction comme ça ?
Eh ben oui, il y en a eu beaucoup. C'est pas du tout la première fois qu'un personnage de série ou de film fait l'objet d'un tel procès. En novembre 2018, Voldemort, le méchant d'Harry Potter, a été jugé pour ses crimes lors d'un procès qui avait lieu au Grand Rex, à Paris. Grand Rex qui avait été complet ce soir-là. À Lyon, toujours dans le cadre de la Nuit du Droit, c'est Jon Snow, cette fois-ci toujours de Game of Thrones.
You know nothing.
Et il avait eu droit à son procès. Vous voulez les chefs d'inculpation?
Ah oui, allez-y.
Régicide, traite de la garde de nuit, exécution de plusieurs personnes dont un enfant de moins de 15 ans, ouverture de château noir au Sauvageon et sédition, mais aussi inceste. Hein.
Ouais.
La liste est longue hein, pour Jon Snow.
Je vois
que c'est votre chouchou.
c'est chouchou de tout le monde.
Donc, le procès de Jon Snow, c'était à Lyon. Le professeur de la Casa des Papel avait été lui jugé à la cour d'assises de Rennes au sein du Parlement de Bretagne. Il était jugé pour braquage de la fabrique de monnaie d'Espagne, évidemment. Et en 2019, toujours à Rennes, Thomas Shelby de Pinky Blinders.
Ah, c'est sûr.
Il avait été jugé lui aussi. Donc si vous nous écoutez ce matin en Mayenne, que vous aimez Game of Thrones, rendez-vous demain 18h au tribunal. C'est gratuit et c'est ouvert au public, le procès de la reine de Game of Thrones.
Incroyable.
18h demain, oui, pour y avoir une grosse affluence.
Hein. Ah, il risque d'y avoir du monde. En tout cas, tous ces procès-là que je vous ai cités ont à chaque fois affiché complet, à chaque fois dans des amphithéâtres de plus de 500 places.
Ah, oui.
Et le Grand Rex pour Voldemort.
C'est drôle quand même. Merci beaucoup Anissa Haddadi et on vous retrouve juste avant 5h30 pour la météo.
À tout à l'heure.
Votre matin.
Bon réveil à tous sur Europe 1, 5h18, les titres de ce lundi 3 octobre, Alban Le Prince.
Journée sous haute tension au programme pour la rentrée parlementaire. À l'Assemblée, après un débat sur la guerre en Ukraine, les députés se pencheront sur la réforme de l'assurance chômage jusqu'à mercredi. Emmanuel Macron, lui, se rend en Allemagne aujourd'hui pour dîner avec le chancelier Olaf Scholz, jour de la fête nationale célébrant la réunification. Le président qui promet de nouvelles sanctions européennes contre la Russie après l'annexion de 4 régions ukrainiennes dans le territoire de Donetsk. Volodymyr Zelensky a revendiqué hier soir la reprise à l'armée russe de la ville de Liman. Après Lille, Reims, Strasbourg, le maire de Bordeaux boycottera la Coupe du Monde. Aucun écran géant ne sera installé dans la ville pendant la compétition. Objectif, dénoncer la politique environnementale du Qatar et les conditions de travail des ouvriers. Puis le parti majoritaire à l'Assemblée de Corse affirme vouloir poursuivre les discussions sur l'avenir de Lille avec le gouvernement malgré le refus de réaménagement de peine pour Pierre Alessandri.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
5h19 sur Europe 1, allez, vous ouvrez les yeux en douceur. Si vous n'êtes pas en retard, en tout cas je l'espère pour vous, les initiatives en France nous emmènent ce matin dans le Loiret.
Bonjour Julie Labbé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Avec Alban Potin, vous avez créé les Petites Occases à Saint-Denis-en-Val, c'est tout près d'Orléans dans le Loiret, les Petites Occases. C'est un site de e-commerce qui propose des articles d'occasion pour les enfants jusqu'à 12 ans. Ce qui vous différencie avec les autres sites de vente d'articles d'occasion, Julie Labbé, en plus de ne proposer que des articles destinés aux enfants, c'est que vous ne mettez pas en relation les particuliers. Ce n'est pas un site de vente entre particuliers. Vous jouez le rôle d'intermédiaire.
Oui, tout à fait. Donc, les Petites Occases, effectivement, c'est une boutique en ligne de vêtements, de jouets, de livres et de petites puricultures d'occasion pour les enfants, comme vous le disiez, de 0 à 12 ans. En fait, nous, on est situé à Orléans, mais on couvre toute la France en termes de livraison. Notre objectif, c'est de ne pas avoir à faire l'intermédiaire entre les parents pour l'achat de vêtements d'occasion et de faire office nous-mêmes d'intermédiaire et de leur offrir la qualité garantie. Donc effectivement, chacun des articles qu'on propose sur la boutique est minutieusement regardé et trié, sélectionné par nos soins, ce qui permet de garantir la qualité des articles que les parents achètent sur notre e-shop.
Vous collectez donc les articles, vous les achetez hein, aux particuliers, aux parents qui veulent vendre les vêtements de leurs enfants, peut-être des vêtements trop petits, et puis ensuite vous les vendez.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, pour l'instant, on fait des collectes sur Orléans et son agglomération.
Oui.
Là, dans les mois qui viennent, on va ouvrir sur toute la France nos collectes par des systèmes de colis. Ça nous permet effectivement d'aider les mamans à vider les placards des vêtements trop petits de leurs loulous. Et une fois qu'ils sont sélectionnés avec beaucoup de minutie, on les remet en vente sur notre boutique en ligne.
Oui, pour le moment, on peut déposer les vêtements des enfants dans votre atelier, c'est ça
vous collectez dans notre
aussi
atelier
au domicile
à Saint-Denis.
Ouais.
Exactement, notre atelier à Saint-Denis-en-Val. Et comme je vous le disais, on va très rapidement l'ouvrir sur toute la France, ce qui permettra d'aider les mamans de tout le territoire.
Autre originalité des petites occasions, Julie Labbé, c'est que vous n'acceptez que des vêtements ou des articles de marque.
Oui, en fait, alors c'est pas qu'on préfère certaines marques à d'autres, loin de là, mais c'est qu'en fait, il n'est pas forcément très intéressant.
Choisissez la qualité, quoi.
Oui, c'est ça, c'est surtout la qualité et puis d'avoir des vêtements qu'on peut acheter de seconde main, mais qui seront quand même utilisables pour le petit premier, mais aussi pour le petit deuxième, ou éventuellement qu'après on peut à nouveau racheter aux mamans pour servir pour une troisième vie.
Oui, c'est un marché de seconde main haut de gamme, mais qui du coup dure dans le temps. C'est un petit peu votre objectif.
C'est ça. Alors après, on ne se positionne pas forcément sur du très haut de gamme, parce qu'on va couvrir, alors si je peux me permettre de citer quelques marques, mais on va couvrir aussi bien du Petit Bateau que du Hokkaidi, du Jacadi, que de l'orchestra, mais par contre, effectivement, on est très attentif à la qualité des vêtements.
Les vêtements, justement, vous acceptez des vêtements intemporels, en plus d'être en bon état, évidemment.
Oui, alors on essaye quand même de rester sur des collections assez récentes, parce que l'objectif, c'est justement que les mamans, quand elles achètent sur notre boutique, elles aient presque l'impression d'acheter des vêtements neufs, donc elles puissent s'y retrouver sur les types de vêtements qu'elles font porter à leurs enfants. Mais bien évidemment, les intemporels marchent toujours avec toutes les mamans et quels que soient les âges. Donc, on va accepter aussi ces vêtements-là.
Oui, bien sûr. Avant d'en venir au prix de vente, Julie Labbé, combien rachetez-vous par exemple un body ou un ensemble de marques? Est-ce que vous avez des prix fixes, une grille peut-être?
Alors oui, effectivement, on a une grille tarifaire qui est d'ailleurs accessible sur notre site internet. Et en fait, chaque vêtement est étudié pièce par pièce et le prix de rachat va dépendre de la marque et du type de vêtement. Et
vous avez quel ordre de prix, quel ordre pour nous donner une idée?
Ça va vraiment dépendre des marques. Sur les marques, on va dire, d'entrée de gamme, on va être plutôt entre 50 centimes et 1 euro le vêtement. Après, on peut monter sur des marques qui sont beaucoup plus chères, neuves, on va monter sur des prix aussi plus importants.
Et quels sont les prix que vous pratiquez, pour nous donner aussi un exemple? J'imagine qu'évidemment, c'est beaucoup moins cher que le prix en magasin.
Oui, tout à fait. C'est vraiment beaucoup moins cher parce qu'en moyenne, nos vêtements sont vendus moins 70% par rapport au prix du neuf et on peut aller pour certains jusqu'à moins 80%, voire moins 90% du prix du neuf.
Combien dépense-t-on en moyenne sur votre site? Combien dépensent les parents?
Alors déjà, il faut savoir qu'il y a les parents, mais on a aussi beaucoup de papy-mamie qui achètent sur notre site internet.
Sûr.
Donc les mamies se font vraiment plaisir avec la seconde main. On est à peu près sur un panier moyen qui est aux alentours de 40 euros.
Vous n'étiez pas dans l'habillement à l'origine avec la cofondatrice des petites occasions, Alban Potin. Vous êtes mère de famille et vous avez envie de vous lancer dans la seconde main par expérience? D'avoir eu beaucoup de vêtements à la maison?
Oui, alors effectivement, ça joue beaucoup. Comme vous le disiez, on n'était pas du tout de ce monde-là, ni du monde du e-commerce d'ailleurs. Alban est plutôt issu du monde du marketing. Moi, j'ai travaillé pendant des années en ressources humaines et plus récemment, j'ai accompagné des entrepreneurs en création d'entreprise. Donc effectivement, de mon côté, ça a été un déclencheur de vouloir monter ma propre société. Et puis effectivement, on est deux mamans, à nous deux, on a 5 enfants et on sait ce que c'est que de gérer leur garde-robe. Donc ça a beaucoup joué dans notre prise de décision. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, on est des mamans un petit peu écolo et c'était pour nous très important de monter un concept qui ait du sens pour nous, mais aussi pour la planète, pour l'environnement.
Merci beaucoup, Julie Labbé, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 pour nous parler de votre site de vente d'articles d'occasion, votre boutique en ligne pour enfants, qu'on retrouve sur l'adresse lespetitesocases.com. Bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée à vous.
5h28, bon réveil avec Europe 1. Nous sommes le lundi 3 octobre au programme de la prochaine demi-heure.
Le pouvoir de la musique, Omblin, ça doit vous parler ça, sur le développement de nos chères têtes blondes. Tous les enfants naissent musiciens. C'est le livre passionnant de Joan Koenig, américaine installée en France. Elle est musicienne et éducatrice. Elle sera notre invitée à 5h40. Ce sera juste avant d'ailleurs votre prescription culture, Omblin.
Un roman qui va nous donner envie de réviser des classiques musicaux, figurez-vous, Alexandre, des Thelonious Monk aux Beatles. Il s'appelle Variation de Paul. Il est signé Pierre Ducrozet et c'est le choix de Nicolas Caro. Dans la prescription série, à suivre également, Héloïse Goua va vous inviter à regarder The Serpent Queen sur Catherine de Médicis.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
À la une, d'abord cette information Europe 1, conséquence du sabotage des gazoducs en mer Baltique. La France renforce la surveillance de ses propres câbles sous-marins. L'ordre vient directement d'Emmanuel Macron. Explication de Louis Dragnel dès le début de ce journal. C'est l'information de la nuit au Brésil. L'ex-président Lula en tête du premier tour avec près de 48% des voix contre un peu plus de 43% pour son adversaire Bolsonaro. Un militaire en chasse un autre au Burkina Faso. Le chef de la junte au pouvoir démissionne sous la pression de jeunes officiers. Le pays bascule dans le chaos sur fond de sentiments anti-français. Dans ce journal également, la rentrée parlementaire à l'Assemblée, deux dossiers à l'ordre du jour, la guerre en Ukraine et la réforme de l'assurance chômage. Enfin, ouverture aujourd'hui de la campagne de rappel contre le Covid avec de nouveaux vaccins. Leur particularité, ils sont adaptés aux variants Omicron. Les détails à la fin de ce journal. Journal présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le lent retour à la normale se confirme en mer Baltique. Le gazoduc Nord Stream 2 ne fuit plus. C'est ce qu'affirme le consortium chargé de son exploitation. Aucune information en revanche disponible pour Nord Stream 1. Si la fuite a commencé à faiblir, on ne sait toujours pas si elle est colmatée.
Ce sabotage pousse donc les Européens et les Français à s'organiser.
La défense des infrastructures sous-marines fera l'objet d'un sommet informel vendredi à Prague de la Commission européenne. Sans plus attendre, la France renforce la surveillance de ses propres installations. C'est une information Europe 1. Emmanuel Macron vient d'ordonner l'inspection des câbles français. Tous les scénarios sont envisagés, Louis Dragnel.
Oui, le chef de l'État prend la menace très au sérieux, d'autant que la France, pays le plus connecté du continent, est le principal point d'entrée de l'Union européenne pour les flux de données. Alors, Emmanuel Macron a demandé aux responsables militaires, principalement de la Marine nationale et aux chefs des services de renseignement, une inspection de toutes les infrastructures françaises. On compte une petite trentaine de mégacâbles, également une surveillance renforcée de ces fils qui mesurent des dizaines de milliers de kilomètres. Tout le défi est là car il est impossible de tout protéger. Heureusement, sur chaque câble, on trouve des capteurs ultra sensibles tous les kilomètres qui redynamisent le transit des flux de données, mais surtout capables de signaler toute vulnérabilité ou tout acte de sabotage. Pour que la France soit paralysée, il faudrait au moins que 4 ou 5 mégacâbles soient attaqués au même moment, un risque qui n'est pas pris à la légère. Plusieurs interlocuteurs d'Emmanuel Macron lui ont déjà suggéré une liste d'actions à mettre en place pour que les données les plus importantes continuent de circuler, comme les informations bancaires, les connexions des hôpitaux, des aéroports ou encore les systèmes de surveillance de l'eau potable. Et donc, en cas d'attaque de nos câbles, le chef de l'État pourrait décider par exemple l'arrêt de Netflix ou encore de YouTube qui consomme une bande passante considérable.
Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, et rappelons que plus de 90% de toutes les données mondiales transitent par ces câbles sous-marins.
Nous vous le disions en titre, au Brésil, Lula arrive donc en tête du premier tour de la présidentielle.
L'ancien président de gauche obtient 48% des suffrages. La surprise vient du score obtenu par le président sortant, Jair Bolsonaro. Avec un peu plus de 43% des voix, il fait mentir les sondages qui le donnaient largement battu. Il y aura donc un second tour le 30 octobre.
La situation est confuse au Burkina Faso. Le chef de la junte au pouvoir dans ce pays vient d'être renversé sur fond d'un violent sentiment anti-français.
Et Paris réfute toute ingérence dans ce que la ministre des Affaires étrangères décrit comme une crise interne. Les putschistes accusent la France d'avoir tenté de maintenir le colonel Damiba au pouvoir. Ce dernier a finalement démissionné après un week-end de violence. Les partisans du nouvel homme fort Ibrahim Traoré ont notamment attaqué l'ambassade de France à Ouagadougou, Alexandra Gégi.
Oui. Dans les rues de Ouagadougou, des drapeaux français brûlés, des pancartes hostiles à la France et devant l'entrée de l'ambassade, des pneus incendiés, des jets de pierres, comme en témoignent des vidéos sur les réseaux sociaux.
On est en train de mettre le feu à l'ambassade, plus jamais au Burkina.
Dans le même temps, d'autres symboles de la France ont été violemment pris d'assaut, comme l'Institut français, des dégâts filmés sur Twitter.
Tout a été saccagé, tout ce qu'ils n'ont pas pu emporter, ils ont tout détruit.
Des actes anti-français donc, mais aussi des drapeaux et des slogans pro-russes. L'influence de Moscou ne cesse de croître dans cette région, comme l'explique Caroline Roussy, spécialiste de l'Afrique à l'Iris.
La Russie, c'est tout l'imaginaire de l'URSS qui a soutenu la lutte contre l'apartheid. Elle bénéficie d'une image plutôt positive. La Russie est aussi un épouvantail qui permet de déstabiliser la France.
La France accuse en effet régulièrement la Russie de mener des campagnes sur les réseaux sociaux pour la discréditer. Sur place, Ibrahim Traoré, nouvel homme fort du Burkina Faso, a appelé à cesser les actes de violence envers la France.
Alexandra Gégy.
En Ukraine, la contre-offensive s'accélère, Christophe. L'armée russe semble incapable de résister à la poussée des forces ukrainiennes.
Et après Liman, les forces ukrainiennes se concentrent désormais sur la libération de Kherson. Deux villages situés à proximité de cette autre ville clé ont été repris. La stratégie de Kiev paraît désormais évidente, reprendre le plus de terrain possible pour rendre inopérantes les annexions russes.
Le conflit en Ukraine et ses conséquences, il va en être question aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La rentrée des parlementaires s'annonce périlleuse pour l'exécutif.
Et on sera sans doute très loin du consensus qui s'était dégagé cet été autour du pouvoir d'achat. La majorité va devoir batailler avec les oppositions. Il y aura l'examen en première lecture ce soir de la réforme de l'assurance chômage. Il y aura aussi le débat sur l'Ukraine. C'est d'ailleurs ce sujet qui va occuper la toute première séance, Arthur Delaborde.
Oui, pas de projet de loi au programme pour le retour des députés au Palais Bourbon, mais une discussion au cours de laquelle la majorité compte pousser le RN et les LFI à se positionner clairement sur Vladimir Poutine et les sanctions contre Moscou. Nous allons les renvoyer dans les cordes en rappelant leurs déclarations passées, assure un cadre de la Macronie. Un peu plus tard dans la journée débutera le débat sur le premier texte présenté par le gouvernement, la réforme de l'assurance chômage, avec une ambiance tendue en perspective puisqu'il s'agit de prolonger les règles controversées adoptées lors du précédent dans le quinquennat. Celle-ci arrive à échéance à la fin du mois. Le gros morceau, ça sera la semaine prochaine avec l'examen des budgets de l'État et de la Sécurité sociale, les fameux PLF et PLFSS qui devraient enflammer les hémicycles tout au long de l'automne. Côté Sénat, c'est aussi la rentrée aujourd'hui avec en première lecture, très vite, le projet de loi sur les énergies renouvelables, puis un autre sur la sécurité. En tout cas, les parlementaires le savent, dès cette semaine, le rythme sera très élevé. Tous s'attendent à enchaîner les séances de nuit.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
On reparle du Covid, tiens, aujourd'hui, puisque la campagne de rappel démarre ce lundi.
Oui, avec une nouveauté, Alexandre, l'arrivée dans les pharmacies de 3 nouveaux vaccins. Particularité de ces sérums, ils sont capables de cibler Omicron, variant très répandu et très contagieux. La Haute Autorité de Santé recommande d'utiliser l'un des 3 qui est concerné par cette campagne de rappel et quelle est la spécificité de ces vaccins. Eh bien, les détails avec Yasmina Katou.
Il y a d'abord les 2 vaccins de Pfizer. L'un est adapté au sous-variant BA1 uniquement, l'autre au plus récent BA4 et BA5 qui dominent aujourd'hui. Le laboratoire Moderna a lui adapté son sérum au variant BA1. Alors en plus d'Omicron, les 3 vaccins contiennent aussi la souche originelle de Wuhan, ce qui devrait apporter une protection plus importante selon les scientifiques. Gilles Pialoux est infectiologue.
Il y a une réponse immunitaire plus forte, plus neutralisante, c'est-à-dire que ça monte plus haut en termes de taux d'anticorps qui neutralise le virus. Et effectivement, ça met plus de temps à diminuer.
Ces vaccins serviront uniquement en dose de rappel et toute personne qui souhaite se faire vacciner le pourra. Mais les autorités recommandent de cibler les personnes fragiles pour cette campagne, les plus de 60 ans, les immunodéprimés ou encore les professionnels de santé. Et face à la reprise de l'épidémie, le ministre incite les Français concernés à recevoir leur injection au plus vite, sans attendre le vaccin contre la grippe qui ne sera disponible que d'ici 2 semaines. Car comme l'année dernière, il sera possible de recevoir les 2 sérums en même temps.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.
Du football maintenant, Lens confirme son début de saison tonitruant.
Les Lensois s'imposent 1-0 face à Lyon en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Lens n'est plus qu'à 1 point de la 3e place occupée par Lorient. 4e défaite consécutive pour les Lyonnais qui continuent de glisser au classement. Ils sont 7e ce matin.
En rugby, Toulouse s'impose 19-17 sur la pelouse du champ. champion en titre Montpellier et prend la tête du top 14 après 5 journées.
Et en Formule 1, le sacre de Max Verstappen attendra encore un peu. Le Néerlandais termine à la 7e place du Grand Prix de Singapour. La victoire revient à son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez. Il devance Charles Leclerc et Carlos Sainz. Enfin, en MotoGP, Fabio Quartararo n'a plus que 2 points d'avance sur son rival au championnat, Francesco Bagnaia, à l'issue du Grand Prix de Thaïlande, disputé sur une piste détrempée par la pluie, conditions dantesques. Le Français a terminé hors des points. L'Italien, lui, a pris la 3e place d'une course remportée par Miguel Oliveira.
Merci Christophe Lamarre, il est 5h39. Très bon réveil à tous sur Europe 1. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre, direction l'hippodrome d'Enghien pour ce Quintet disputé sur la distance de 2150 mètres et sur ce tracé de vitesse. Avec un départ donné à l'aide de l'autostart, priorité aux chevaux s'élançant en première ligne, avec les numéros 5, Égine Précieuse, 2, Espoir des Champs et 1, Expresso Good, tous les trois nantis d'une position idéale derrière la voiture et dont la parfaite condition physique est certaine, comme le prouve leur dernière performance dans ce style d'épreuve. Derrière ces trois priorités, je vous recommande Fille du Chêne, le numéro 7, troisième d'un quintet similaire, le 23 juillet sur ce tracé, et qui n'aura qu'à répéter cette performance pour terminer une nouvelle fois dans les trois premiers, et Extra du Châtelet, le numéro 14, très confirmé sur le parcours qui nous intéresse et pour lequel son entourage ne m'a pas caché sa confiance. Enfin, les numéros 3, Eureka du Fossé, 9, Félus Ernez et 12, Fignot du Pomereux peuvent, comme beaucoup d'autres, s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 5, 2, As, 7, 14, 3, 9 et 12.
Merci beaucoup Thierry Léger et tous ces pronostics, vous les retrouvez dès maintenant sur europe1.fr.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Paul,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Et c'est le jour où, à présent, les grands faits historiques racontent à travers les archives d'Europe 1.
Bonjour, Lord d'Autriche.
Bonjour, Alexandre. Bonjour, Amblin.
Alors aujourd'hui, nos cousins québécois sont appelés à voter pour des élections législatives. Quand on pense au lien politique très fort de la France avec le Québec, on pense bien sûr, Lord, au général de Gaulle.
Oui, il y a évidemment sa phrase célèbre « Vive le Québec libre » prononcée en 1967 depuis le balcon de l'hôtel de ville de Montréal.
Vive le Québec libre !
La foule devant l'hôtel de ville est euphorique. Au bord de la route, sur son passage, le président de Gaulle est salué comme un libérateur. On a construit un immense arc de triomphe pour lui. Charles de Gaulle a conscience qu'au Québec émerge un mouvement séparatiste et il profite de son voyage pour faire un coup d'éclat.
Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir, ici et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération.
Alors on entend le général de Gaulle faire la comparaison avec la libération à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais il se trouve qu'en coulisses, le maire de Montréal, lui, juste avant ce discours, eh bien il ne veut pas que le général de Gaulle fasse de vagues.
Oui, et il a même fait débrancher le système de son situé au balcon. Mais De Gaulle repère un micro dans le bâtiment et un technicien accepte de le rebrancher. Plus la journée avance, plus ses propos font vibrer la fibre nationaliste.
À l'université, De Gaulle a été accueilli par les exclamations et les vivats de quelques 4000 étudiants qui criaient « Québec libre, De Gaulle l'a dit ».
Alors pour minimiser la portée de « Vive le Québec libre », certains laissent entendre à l'époque que De Gaulle s'est laissé emporter par la situation, d'autres insinuent qu'il est gâteux, la polémique en tout cas est lancée, et qu'en dit le gouvernement canadien, le journaliste d'Europe 1 Maurice Bruzek glane à l'époque des informations lors d'une garden party à Montréal.
Un verre de bourbon à la main, j'ai pu apprendre ici et là que le gouvernement d'Ottawa avait été choqué beaucoup plus par l'atmosphère de libération décrite par le général de Gaulle dans son discours à l'hôtel de ville que par le « Vive le Québec libre ». Toutes les provinces du Canada, quelles qu'elles soient, étant précisément libres, n'ayant donc pas besoin d'être libérées.
Cela déclenche tout de même une crise diplomatique entre la France et le Canada et les relations entre les deux pays ne s'amélioreront qu'après la démission du général de Gaulle de la présidence de la République en 1969.
Merci beaucoup Lord d'Autriche et à demain pour un nouveau jour où sur Europe 1.
5h43, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Très bon début de journée. La musique est un langage aussi important que les mots. Elle joue un rôle majeur dans le développement des enfants dès les tout premiers âges de la vie. Tous les enfants naissent musiciens. C'est le livre passionnant de l'éducatrice Joan Koenig. Elle sera avec nous dans un instant.
Europe Matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
5h44, bienvenue si vous arrivez sur Europe 1. Tous les enfants naissent musiciens. C'est la conviction de John Cunning et le titre de son dernier livre qui vient de paraître chez Actes Sud. Musicienne et éducatrice d'origine américaine, elle croit au pouvoir de la musique dans la construction de soi dès les premiers âges de la vie. John Cunning est ce matin votre invité, Alexandre.
Bonjour John Cunning.
Bonjour Alexandre.
Tous les enfants naissent musiciens. Alors vous partez d'un constat très simple. Un enfant apprend à parler avant d'apprendre à lire et à écrire. Il peut donc très tôt apprendre à faire de la musique. Vous dites même musiquer.
Oui, tout à fait. En fait, on sait aujourd'hui que le développement linguistique et le développement musical sont quelque part sur un trajet parallèle. On a l'habitude de parler beaucoup à nos enfants et on n'est pas étonné quand ils nous répondent et peaufinent leur capacité langagière avec le temps. Mais on réfléchit un peu moins à l'expérience musicale que l'enfant peut avoir à le même âge.
Très concrètement, qu'apporte l'éveil musical aux très jeunes enfants ?
Je pense qu'aujourd'hui, l'une des premières choses à laquelle il faut faire très attention, c'est que nous voyons beaucoup de problèmes d'attention, de concentration chez les jeunes enfants. Et en fait, une pratique musicale engage tellement les enfants, physiquement, émotionnellement et même cognitivement, que c'est un outil de développement de ce qu'on appelle du focus ou simplement l'attention.
Vous dites qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre à la musique, mais pour en récolter les meilleurs fruits tout au long de sa vie, tout se joue en fait dès la première enfance, hein, avant l'âge de 6 ans.
Oui, en fait, je ne voudrais pas décourager les gens, mais c'est comme le langage. On sait aujourd'hui que les plus qui apportent une pratique musicale dans la vie sont en directe corrélation avec l'âge à laquelle l'enfant a commencé.
Vous appliquez des méthodes d'apprentissage bien précises, hein. Vous les développez d'ailleurs dans votre livre, il fonctionne vraiment comme un guide, hein, à destination en premier lieu des parents.
J'espère, parce qu'en fait, ce que j'aimerais bien démontrer, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une formation classique extrêmement poussée pour faire de la musique avec les enfants. D'ailleurs, dans beaucoup de pays dans le monde, on a une pratique musicale amateur, en famille, en communauté. Et en France en particulier, je trouve que les parents se jugent beaucoup en disant « j'aimerais faire de la musique avec mon enfant, mais je n'ai pas de formation ». Et donc ce livre est destiné à donner confiance aux parents.
Alors il y a toute une foule de conseils, hein, et on n'en fera pas le tour, il faut simplement lire le livre. Mais je pense en particulier à cette façon de trouver l'osmose avec son bébé par la musique, par la chanson, pour le rassurer par exemple lorsqu'il est en train de pleurer.
Oui, en fait, c'est assez remarquable. Il y a tout un travail scientifique sur le fait que les bébés répondent davantage au chant qu'à la voix parlée. Il faut se souvenir, faut garder en tête qu'un nouveau-né, de quoi il a besoin ? Il a besoin d'être en connexion totale avec ses parents, sinon il est seul. C'est d'ailleurs pour cette raison, je pense, que les berceuses existent dans toutes les langues et partout sur la Terre.
Bien sûr, c'est un véritable projet éducatif, hein, que vous avez développé autour de l'éducation musicale des enfants dès le plus jeune âge. Vous êtes vous-même pianiste, John Cunning. Ce projet, vous le mettez en œuvre d'ailleurs au sein de votre école à Paris qui porte votre nom, l'école Cunning.
Oui, moi, je suis flûtiste. D'ailleurs, en fait, je suis venue en France pour étudier avec notre merveilleux Jean-Pierre Rambal. Donc, effectivement, en fait, j'ai développé j'aime pas dire méthode, mais une philosophie qui est basée sur l'oralité.
Tous les cours de classe démarrent en chanson.
Exactement, parce que ça fédère tous les enfants. Mais vous-même, quand vous chantez avec un concert de rock, par exemple, j'imagine que vous vous sentez en osmose avec les gens qui vous entourent.
Bien sûr.
Imaginons pour un bébé ou pour un jeune enfant, à quel point c'est une source de réconfort.
Les liens entre la musique et le développement du cerveau sont un objet d'études scientifiques, hein, et le résultat de cette étude, eh bien, c'est que oui, l'apprentissage précoce de la musique va développer les connexions entre neurones. Autrement dit, la musique rend nos cerveaux plus performants réellement.
Absolument. Et c'est extrêmement clair quand on parle du langage. Par exemple, un bébé, quand il nous entend parler, une phrase comme « Allez, on va aller au parc maintenant ». Lui, il entend comme
Il entend la musique, oui.
Il entend la musique, mais c'est un pratique musicale, donc un travail, un entraînement rythmique qui va lui permettre de distinguer les mots au sein d'une phrase.
C'est vrai qu'à l'école, aujourd'hui, la musique, elle fait la plupart du temps partie des apprentissages périphériques. Hein. Et vous, vous dites, c'est tout le contraire. La musique devrait être au cœur du projet éducatif parce que connaître la musique peut booster l'apprentissage des langues et même des mathématiques.
Absolument. En fait, tout le monde a cette expérience du fait de retenir une chanson de son enfance depuis plusieurs décennies et on se rappelle sans aucun problème. Alors imaginez que vous abordez les apprentissages de base, que ce soit les tables de multiplication ou l'alphabet. Si vous les abordez en musique et en mouvement, l'apprentissage est accéléré et aussi extrêmement pérenne. Donc, il faut le faire, pourquoi pas ?
Et oui, bien sûr, et au-delà de la performance, parce qu'on parle de la performance, mais connaître la musique, entendre la musique dès le plus jeune âge, c'est aussi, John Koenig, apprendre à développer toute la palette de ses émotions.
Exactement, je pense que c'était, j'aimerais bien dire qu'on ne cherche pas à créer les nouveaux Mozart.
Notre
objectif, c'est de stabiliser l'enfant et de le rendre bien dans sa vie et en confiance. La musique est vraiment une pierre angulaire dans cette construction.
Merci, merci John Koenig. Vous venez de publier « Tous les enfants naissent musiciens, les pouvoirs insoupçonnés de la musique dans la construction de soi ». C'est publié aux éditions Actes Sud. Merci à vous.
Merci Alexandre Le Maire.
Europe Matin, lundi 3 octobre à 5h50, les titres Alban Le Prince.
Au Brésil, les élections présidentielles, Lula donné vainqueur dès le premier tour par les instituts de sondage. Mais une fois le dépouillement effectué, son avance est moins importante que prévu, même s'il devance le président sortant Jair Bolsonaro. Le second tour est prévu le 30 octobre. Le Burkina Faso, toujours en proie aux tensions après un coup d'État. Vendredi, l'ancien président, déjà putschiste, a accepté de démissionner hier soir. L'ambassade de France visée par des jets de pierre et des incendies de barrières. De son côté, Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, estime qu'il s'agit d'une crise interne. La France n'est pas partie prenante. Et puis début aujourd'hui de la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid avec les nouveaux sérums développés par Pfizer et Moderna contre le variant Omicron. Il est utilisé uniquement en dose de rappel.
Europe Matin.
Très bon début de matinée sur Europe 1, 5h50. C'est maintenant votre prescription culture.
On parle série le lundi, vous le savez. On sera avec Héloïse Goy dans un instant.
Mais d'abord de la littérature. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
Alors Nicolas, vous avez lu un roman musical, c'est-à-dire...
Alors là, accrochez-vous, c'est pas un roman, c'est une expérience musicale. Donc, mais, et c'est ça le génie de ce livre, c'est la musique des mots qui donne le rythme. Je vous explique, ça s'appelle « Variation de Paul » chez Actes Sud, signé Pierre Ducrozet. L'histoire de Paul Malval, né en 47, ça commence avec sa naissance à la maternité, avec une scène incroyable d'ailleurs. Mais chronologiquement, ça commence avec Antoine Malval, son père, qui apprend le piano en devenant l'élève de Debussy. Antoine rencontre ensuite Sarah, à Lyon, elle est d'origine autrichienne. Alors après Debussy, on a le droit à Stillenart, Sainte Nuit. Et voilà Paul, donc élevé avec son frère dans la musique. Ses premiers souvenirs, ce sont les concertos de Mozart.
Fait dire Nicolas que c'est une expérience musicale. Est-ce que c'est parce que son père est musicien et qu'il écoute du Mozart ?
En fait, Paul Malval se construit par la musique. D'ailleurs, il développe un super pouvoir. Vous savez, il fait partie de ces gens qui, lorsqu'ils entendent de la musique, voient des formes, des architectures, des couleurs. Et on suit l'épopée Malval du père à la petite fille Chiara, en passant par Paul, donc dans une fresque familiale, certes, mais dans un décor de musique. Et c'est ça ce qui est fou. Des livres qui citent des chansons ou des musiciens, j'en ai des camions. Mais là, Pierre Ducrozet envoie toutes les techniques d'un coup. Évocation, il y a des portées, évidemment, des noms de musiciens ou d'œuvres, des descriptions de bruit, de sons, des paroles, des onomatopées, si bien qu'on entend la musique en lisant. Bientôt, Paul tombe sur un numéro de Jazz Magazine, il écoute des vinyles, Armstrong par exemple, mais il y a aussi Chet Baker, Thelonious Monk quand il est à New York, oui parce qu'on voyage beaucoup aussi. Puis c'est Elvis.
Traverse les années, Nicolas, avec la bande originelle de l'époque, hein, c'est bien ça ?
Voilà, il y a les Beatles, Pink Floyd, Bob Dylan, John Coltrane, même Jimi Hendrix un soir, un concert à Paris. À la fin, on a Radiohead, la musique électronique, parce que Chiara s'y intéresse de très près. C'est un feu d'artifice musical, ce livre.
Alors comme un idiot, moi je notais à chaque fois que je tombais sur un morceau pour l'écriture de la chronique et pour moi, mais en fait tout est listé à la fin, 5 pages de titres comme dans un générique. C'est un livre virtuose. Je n'ai jamais lu ça, je pense que c'est la première fois que je lisais un roman en battant la mesure en même temps avec mon pied.
Lire un livre en battant la mesure avec le pied.
Bah oui, pourquoi pas.
Et à la fin du roman, avoir toutes les listes des chansons. C'est une formidable trouvaille, mon cher Nicolas Caro. Pierre Ducrozet a signé donc Variation de Paul chez Actes Sud. Merci Nicolas. On retrouve à présent Héloïse Goua pour la prescription série. Bonjour.
Bonjour Omeline, bonjour Alexandre.
Bonjour Héloïse. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de Catherine de Médicis avec la série The Serpent Queen. Alors déjà, première chose, c'est loin d'être la première série sur une reine, hein.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu The Crown qui connaît un succès phénoménal depuis la disparition d'Elisabeth II. Il y a eu Reign sur Marie Stuart. The Great sur Catherine II. Il y a même une série sur Marie-Antoinette qui arrive bientôt sur Canal+. Mais la série The Serpent Queen est certainement l'une des plus originales, l'une des plus osées de ces dernières années. Alors on est loin d'un biopic classique, on est même parfois loin de la rigueur historique avec cette série qui est à la fois une comédie noire et un feuilleton façon sitcom très rock'n'roll dès le générique.
Alors a priori, on connaît moins Catherine de Médicis pour son côté rock'n'roll que pour sa réputation d'être impitoyable, voire maléfique.
Et oui, c'est justement ce décalage, cette ironie permanente qui fait le sel de la série. Les épisodes reviennent sur ce que cette reine a enduré pour devenir aussi cruelle et aussi puissante, parce que c'était pas gagné au départ. On est en 1534, cette orpheline de 15 ans, qui n'est pas connue pour sa beauté, débarque à la cour de France. Elle est promise au duc d'Orléans, qui deviendra le roi Henri II. Coup de chance, Catherine tombe tout de suite sous le charme de son mari. Mais dès la nuit de noces, elle s'aperçoit que le jeune homme est déjà très amoureux d'une certaine Diane de Poitiers, qui ne porte pas la duchesse dans son cœur.
Comme vous n'êtes pas enceinte, votre avenir s'assombrit. Mais je pourrais vous garder auprès de moi, comme dame de compagnie ou comme bonne.
Alors Catherine comprend que si elle ne parvient pas à enfanter un héritier, elle sera exclue de la cour à coups de pied. Mais cette future reine est d'une intelligence redoutable, elle n'a peur de rien ni de personne. Cette détermination sans faille, Catherine de Médicis l'exprime dans cette série en s'adressant directement à nous, spectateurs, face caméra.
Quand vous trouvez que la vie conspire contre vous, vous devez trouver un moyen pour que cela tourne en votre faveur. Et ce, peu importe le prix. Pour que vos ennemis vous respectent, ne vous laissez pas faire.
Les décors de cette série sont somptueux. Les scènes ont vraiment été tournées dans les châteaux de Chambord et Chenonceau. Les épisodes se dévorent. Presque toute la vie extraordinaire de cette reine est condensée en seulement 8 épisodes. Des épisodes remplis de trahison, de sexe, de violence et de magie noire. Autant vous dire qu'on ne s'ennuie pas.
Alors Héloïse, où est-ce qu'on peut voir cette série ?
The Serpent Queen est en cours de diffusion sur Starzplay. Alors oui, je sais, encore une autre plateforme. Vous pouvez avoir accès à Starzplay si vous êtes déjà abonné à Prime Video ou à Apple TV. Il faudra payer 4,99€ en plus pour voir cette belle série. Et si vous avez Canal+ ou Canal+ série, The Serpent Queen est déjà inclus dans votre abonnement.
Merci beaucoup, Héloïse Goua. Dans 2 minutes, il sera... Dans 3 minutes, il sera 6h. Bon réveil avec nous.
Il est 6h sur Europe 1.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
L'opposition dans les starting blocks. La rentrée parlementaire, c'est ce lundi. Budget, retraite, assurance chômage. La NUPES veut-on découdre pour faire oublier ses polémiques internes ? Sera-t-elle présente pour la fin de son procès ? La conductrice du bus de Mias est jugée jusqu'à vendredi, dernière semaine d'audience à Marseille. Et puis, à la fin de ce journal, on vous présentera l'un des ancêtres de l'homme. Il s'agit d'un fossile découvert en Chine qui n'a rien à voir avec le corps humain. Le journal de 6h, présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Détourner l'attention, une méthode qui a fait ses preuves en politique. C'est d'ailleurs celle choisie par la NUPES. L'alliance de gauche empêtrée dans les affaires Quatennens et Bayou compte bien profiter de la rentrée parlementaire. Les députés sont de retour sur les bancs de l'Assemblée nationale ce lundi. Alexis de la Fontaine, la NUPES veut faire parler d'elle, mais cette fois en s'imposant dans l'hémicycle.
Oui, à gauche, la réforme des retraites et de l'assurance chômage tombe à pic. Embourbée dans les affaires Adrien Quatennens et Julien Bayou, la NUP espère se renouveler dans un duel face au gouvernement. Mathilde Panot, présidente des Insoumis à l'Assemblée nationale, menace déjà de faire de l'obstruction parlementaire.
J'aime à rappeler quand même qu'il y a 2 ans, nous avons réussi, nous avons gagné contre la réforme des retraites et que la dernière fois, nous étions 17 parlementaires. Et qu'à 17 parlementaires, nous avions déposé 22 000 amendements. Et que maintenant, nous sommes 75. Et même 151 si nous prenons les députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale.
Mais au sein de la NUP, certains députés plus modérés veulent rester crédibles selon leurs mots. Alors, ils promettent, pour chaque projet de loi du gouvernement, nous déposerons un contre-projet. Il faut s'opposer, mais surtout proposer, conclut un député socialiste. Et le duel commencera dès ce soir avec l'ouverture des débats sur l'assurance chômage.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, des débats sous haute tension où la crise de l'énergie sera aussi au premier plan.
D'ailleurs, nous ne sommes que le 3 octobre, mais vous êtes déjà nombreux à anticiper l'arrivée de l'hiver.
Oui, avec peut-être un passage ce week-end dans les magasins de bricolage, radiateurs, tapis et autres rideaux thermiques, les rayons se vident. Démonstration avec Guillaume Dominguez pour Europe 1.
Debout au milieu du rayon chauffage, Charadine fait l'inventaire.
Ce qu'on a vendu là aujourd'hui, c'est l'équivalent de 2 mois de vente sur les produits confort. Ces ventes ont été multipliées par 3, voire par 4.
En 20 ans de carrière, ce chef de la zone confort chez Castorama n'a jamais vu ça. Plus de 500 radiateurs d'appoint ont été vendus en à peine 10 jours.
Les gens ont déjà le chauffage fixe, mais ils ont peur que la copropriété bride ce chauffage jusqu'à 18 voire 19 degrés. Du coup, ils se ruent beaucoup sur le chauffage d'appoint.
Les radiateurs ne sont pas les seules victimes de leur succès. Tapis, rideaux, boudins de porte et joints calfeutrants deviennent eux aussi très difficiles à trouver. Joël cherche dans les rayons les derniers produits encore disponibles. Pour elle, tous les moyens sont bons pour s'isoler du froid.
J'aurais bien aimé mettre des tapis parce que chez moi, vraiment, il fait très froid. Le sol est très froid, en tout cas au rez-de-chaussée sur les caves. Je vais mettre des rideaux très épais puisque nous avons des baies vitrées. Je ne suis pas sûre que je ferai bien, mais je vais essayer.
Face à la forte demande, Castorama rassure, il n'y aura pas de rupture de stock. Les livraisons de radiateurs et de produits d'isolation ont été anticipées d'un mois. L'enseigne assure également que les prix resteront identiques à ceux de l'an dernier.
Le reportage de Guillaume Dominguez.
Un réflexe à avoir en tout cas avant l'arrivée de l'hiver, Roman, c'est le rappel anti-Covid.
Et oui, la campagne de vaccination démarre justement aujourd'hui chez les professionnels de santé. Et dans leur frigo, il y a des doses spécifique contre Omicron, le variant qui circule en France. Alors tous les Français peuvent en bénéficier, même si les autorités ciblent d'abord les personnes fragiles ou âgées. Comptez 40 000 nouveaux cas de Covid en moyenne chaque jour, plus 30% en une semaine. Allez-y, je vous en prie, Alexandre.
La principale prévenue est hospitalisée depuis son infarctus au milieu de son interrogatoire. On parle du drame de Millas, un procès déjà gâché pour les familles des victimes. Le correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat.
Audience éprouvante, frustrante pour les blessés de ce drame, pour les familles des victimes qui ont assisté. Hospitalisée, Nadine Oliveira aura manqué la moitié des débats où sa version des barrières du passage à niveau relevées juste avant la collision a été contestée systématiquement par des témoins, par des experts, par des psychiatres enfin qui analysent que face à l'horreur et le poids de la responsabilité, la conductrice du car se serait enfermée dans le déni. Stéphane Mathieu, le papa d'une jeune victime, espérait un pardon, un aveu. Il repartira avec des certitudes et selon lui, c'est comme si ce procès était déjà terminé depuis plusieurs jours.
Procès terminé du fait que oui, qu'elle soit coupable, on peut le dire. Maintenant, on peut le dire, oui, bien sûr. Puisqu'elle est dans le déni, automatiquement, elle ne le dira jamais.
C'est très décevant parce qu'on avait eu plein de choses à lui faire comprendre, surtout face à face. C'est un procès avant tout. Le procès, ça ne se passe jamais comme on le souhaite.
Le réquisitoire du parquet est attendu d'ici la fin de la semaine. Le procès sera ensuite mis en délibéré. Nadine Oliveira, poursuivie pour homicide involontaire, risque jusqu'à 5 ans de prison. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Pour la première fois, un ministre aura-t-il un procès devant la Cour de justice de la République ?
Oui, on parle d'Éric Dupond-Moretti qui est convoqué ce matin devant la commission d'instruction. Le garde des Sceaux sera fixé sur un éventuel procès pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir profité de son statut pour régler ses comptes personnels avec des magistrats. 6h05 sur Europe 1, il a tué 62 personnes. Dernier bilan après le passage de l'ouragan Ian en Floride et en Caroline du Nord. L'une des plus puissantes tempêtes à avoir frappé la côte est des États-Unis.
Des nageoires, des branchies et des écailles. Voici le portrait robot d'un de nos très lointains ancêtres.
Oui, très lointain, on peut le dire, puisqu'on parle d'un poisson vieux de 440 millions d'années. Ces fossiles ont été découverts en Chine et nous éclairent aussi, vous allez comprendre, sur l'évolution de l'homme, notre évolution. Les explications du correspondant d'Europe 1 à Pékin, Sébastien Lebelzik.
Ce petit poisson préhistorique à mâchoire est le plus ancien jamais découvert à ce jour. Il date de plus de 440 millions d'années et remet en cause toute l'évolution des vertébrés, humains compris. Ce fossile découvert en Chine est l'ancêtre de l'homme et de toutes les créatures dotées d'un squelette osseux. L'homme ne descend donc pas d'une sorte de requin primitif comme on le croyait jusque-là, mais plutôt d'un poisson plus modeste doté de vertèbres et d'un squelette, un poisson étrange avec une armure osseuse externe et plusieurs paires d'épines de nageoires qui ne ressemblent à aucune espèce actuelle. Zhu Min est responsable de l'équipe de recherche.
Avec cette découverte, on se rend compte que l'évolution des vertébrés à mâchoire est beaucoup plus précoce que ce que nous imaginions dans le passé. Ces fossiles sont de tout nouveaux types qui nous permettent de savoir à quoi ressemblaient les premières mâchoires.
Depuis 10 ans maintenant, les scientifiques chinois explorent ce site de Chongqing situé dans le sud-ouest du pays et qui révèle ses secrets année après année. Ce nouveau poisson nommé Fanjin Shanya est antérieur d'environ 15 millions d'années aux précédents fossiles de poissons découverts jusque-là. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
6h07, c'est la surprise de ce début de saison de Ligue 1. Lorient s'est imposé face à Lille hier soir. 2-1 pour les Bretons qui suivent donc le rythme du PSG et de Marseille. Ils décrochent la 3e place du championnat après tout de même 5 victoires d'affilée.
L'Olympique Lyonnais en revanche continue sa descente au classement.
Et oui, l'OL est 7e après sa défaite hier soir face à Lens. Les 100 et or ont marqué. But à la 82e minute, il fallait continuer à y croire. Une énième défaite, la 4e pour les Lyonnais. Et celle-ci est difficile à avaler pour Peter Bosz, entraîneur de l'Olympique Lyonnais.
C'est dur, surtout aussi parce que c'est la 4e, surtout aussi parce que c'était à la fin. Et même si ce n'était peut-être pas mérité de prendre un point ici, c'était possible. On a joué des matchs aussi où on a, par exemple à Monaco, où on ne mérite pas de perdre. Mais aujourd'hui, la chance, ce n'était pas à notre côté. Pour moi, tous les matchs sont clés. Et bien sûr, pression est toujours là, surtout quand tu perds 4 fois de filet.
Voilà, la déception d'entraîneur de l'OL, Peter Bosz, au micro de Sébastien Bouet, correspondant d'Europe 1. Et puis dans le classement, toujours Monaco poursuit sa remontée. Le club du Rocher a tout simplement plombé Nantes hier, victoire 4-1.
Et lui va devoir attendre un peu avant d'obtenir une nouvelle couronne.
Oui, on parle de Max Verstappen qui n'a terminé que 7e du Grand Prix de Singapour. Le Néerlandais reste toujours largement leader du championnat du monde de F1 après 17 manches sur 22.
C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Très bon réveil sur Europe 1. C'était le journal de 6h. Merci Romain Oquet.
Il est 6h08 et dans un instant le pressing sur Europe 1. Bon réveil.
6h11, c'est Europe Matin. Allez, pour bien commencer la semaine, notre petite sélection des articles à ne pas manquer dans la presse. C'est l'heure du pressing.
Et c'est Johan Tritz qui nous rejoint pour la semaine. Quel article avez-vous repéré ce matin, Johan?
Alors, vous aussi, Ombline Alexandre, vous êtes toujours demandé combien pouvaient coûter les objets que vous avez récupérés de vos grands-parents ou arrière-grands-parents.
Ah, c'était un trésor ou voilà. C'était juste des bibelots?
Voilà, c'est un truc de bibelot. Eh bien, sachez que peut-être vous pourriez avoir une bonne surprise, comme dans cette histoire racontée par Le Télégramme, car tout part de Bretagne. C'est là-bas qu'une dame âgée décède et lègue à sa fille, partie habiter en Outre-mer, un vase chinois qui est dans la famille depuis plusieurs générations. Il est blanc, avec dessiné en bleu des dragons, l'un des symboles de la Chine. Celui-ci est en porcelaine, mesure 54 cm de hauteur et 40 cm de diamètre. Assez classique jusque-là. Mais ne comptant pas faire voyager ce vase jusqu'en Outre-mer, cette dame décide alors de vendre le vase aux enchères. Un expert passe, estime l'objet à 1 500 à 2 000 €.
Ah quand même, déjà.
C'est déjà ça de prix, hein, me direz-vous.
Petite parenthèse, heureusement qu'elle a fait une demande aux enchères, parce que si elle avait vendu sur une brocante à 5 €...
Vous allez me spoiler mon article. Ouais, c'est déjà pris. Et c'est la maison Sona située à Fontainebleau qui met le bien en vente. Et surprise, de 20 à 30 enchérisseurs chinois sont présents et font grimper le prix du vase.
7 500 000. 7 600 000. 7 600 000. 7 600 000. 7
600 000. 7 millions.
Ah, on parle en millions là, oui, c'est. C'est une pièce de musée en fait.
3 fois.
Vous l'avez bien entendu, 7 700 000 euros pour un bien estimé entre 1 500 et 2 000 euros. Une histoire insensée pour Jean-Pierre Osna, le commissaire priseur, qui raconte que la propriétaire, ou plutôt l'ancienne propriétaire maintenant, n'a même pas vu le vase avant de le vendre et aurait pu même le vendre dans un antiquaire, par exemple. Si l'expert a établi qu'il datait du XXe siècle, certains investisseurs chinois sont venus expressément le voir et ils ont pensé qu'il était du XVIIIe siècle, rendant le vase bien plus précieux. L'acheteur est évidemment chinois et fier de faire revenir le patrimoine de dans son pays. En tout cas, pour l'heureuse vendeuse, c'est un peu comme gagner au loto ou à l'euro million. Je vais peut-être dépoussiérer, moi, quelques bibelots hein, chez moi pour le vendre. Ça fait réfléchir, en tout cas.
Ah bah, merci beaucoup, Johan. C'est vrai que là, je vais aller direct sur un inventaire très précis des vases de la maison. Hein. Ça m'étonnerait que j'ai ce genre de...
On ne sait jamais. On ne sait jamais.
Bonne surprise. Votre sélection, Omblin.
Le fardeau de la célébrité. Voilà, quand je vous pose ça là, vous vous dites naturellement, mais de quoi ils se plaignent, ces stars, ces acteurs, ces sportifs? Et pourtant, la question mérite d'être posée. La santé mentale des stars est aussi mise à rude épreuve. C'est le Huffington Post qui en parle, qui relaie finalement les paroles de ces célébrités en mal de vivre, qui l'affichent donc publiquement. La chanteuse Selena Gomez, par exemple, elle en a fait son cheval de bataille, hein, de parler de santé mentale, ou l'acteur Tom Holland, qu'on connaît bien dans son collant de Spider-Man. Alors, ce qui arrive de plus en plus, c'est que ces célébrités décident de quitter les réseaux sociaux pour se préserver. C'est aussi pour ça que le chanteur Shawn Mendes se préservait donc à écouter sa tournée d'été sans parler de Stromae, qui a écrit la chanson L'Enfer pour parler de ses pensées suicidaires. C'est une vraie question. L'une des causes de cette fragilité, la fragilité mentale des stars, c'est cette notoriété, cette trop grande exposition médiatique. Alors la liste est longue. Le footballeur Benjamin Pavard, ça va pas fort. Les chanteuses Britney Spears, c'est Lassou. Florence Foresti, sa série Désordre sort aujourd'hui sur Canal+. À cette occasion, elle évoque sa dépression. Elle est sous antidépresseur depuis ses 25 ans.
Oui, elle se confie beaucoup, effectivement, sur cette période qu'elle traverse, en effet. Oui,
et donc, elle veut briser ce tabou sur la santé mentale, mettre en scène dans les médias, dans les films, une vie qui n'est pas vraiment la sienne, un soi réel, qui n'est pas vraiment... un soi qui n'est pas, pardon, vraiment réel. C'est peut-être l'un des facteurs de troubles de la santé mentale. C'est ce qu'explique un sociologue. Une analyse confirme cette information par une psychologue du sport. La confusion entre image privée et publique, voilà, l'image renvoyée, façonnée par la presse, par les fans, par les haters aussi, ça peut être très très violent. Ajouter à ça la pression de toujours faire aussi bien, voire mieux, les performances sportives par les athlètes, pas le droit à l'erreur, un pénalty manqué en foot, c'est le lynchage assuré. On ne se met pas assez à la place de Mbappé.
Vous avez raison. Au dernier euro, c'est la place à la Suisse. Ouais.
Avec par-dessus le marché, l'interdiction de se plaindre. Le footballeur Paul Pogba disait dans le Figaro « Parce que tu gagnes de l'argent, tu dois toujours être content. Ce n'est pas comme ça, la vie. » Oui, célébrité et santé mentale, c'est sur le site du Huffington Post. Et ça donne à réfléchir. Ah vous, Alexandre.
Moi, j'ai trouvé un mot d'ordre ce matin dans la presse. Haro sur le gazon artificiel. Vous savez, cette fausse pelouse. Hein, la fausse pelouse qu'on achète en rouleau là, et qu'on va dérouler pour cacher, je ne sais pas, un vilain balcon, une terrasse un peu défraîchie peut-être. Le gazon artificiel, non-sens esthétique, écologique, sanitaire. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est un grand nombre de villes américaines qui en ce moment s'attaquent parmi leurs priorités à la prolifération des pelouses en plastique dans l'espace public. Dernière en date, tiens, la ville de Boston qui décide d'interdire l'installation de ce gazon synthétique. Alors pourquoi ? Eh bien parce que c'est bourré de produits chimiques. Figurez-vous, dangereux pour la santé. Certaines de ces moquettes façon pelouse sont encore fabriquées avec des résidus de pneus broyés. On apprend ça au passage.
Oui,
si vous voyez votre bébé gambader sur de la pelouse synthétique, ben souvenez-vous quand même que c'est un cocktail de métaux lourds, de benzène et autres substances cancérigènes. Je vous passe les détails. Alors la charge ne s'arrête pas là, parce qu'en plus d'être une aberration esthétique, lit-on, donc c'est dans Slate.fr, le faux gazon est une plaie écologique. Il dégage du méthane, puissant gaz à effet de serre. Il crée même des îlots de chaleur. Figurez-vous qu'aux États-Unis, les footballeurs connaissent bien ce phénomène, si bien qu'ils font pression sur la Ligue de foot américain pour interdire les terrains de foot artificiels.
Et pour avoir de la vraie pelouse, du coup.
Et voilà. Alors le problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a un petit peu cette tendance. Il faut que ça brille. Et quand il faut que ça brille, bah, la tentation est grande de dérouler ces kilomètres de pelouse en plastique. Pourquoi ? Particulièrement après cet été, parce qu'elle sert de cache-misère après les sécheresses à répétition, évidemment. Alors c'est oublié qu'il y a dans ce gazon maudit des composants pour le rendre résistant aux taches, à la chaleur, à l'eau, et qui peuvent provoquer, au choix, des problèmes de foie, de thyroïde, des maladies rénales, des malformations congénitales. Débarrassez-vous du gazon artificiel, c'est à lire sur Slate.fr, et c'est un article traduit de l'anglais repéré sur Le Guardian.
C'est bon à savoir, moi qui fais du foot sur les synthétiques. Merci.
Voilà. Benzène, métaux lourds, substances cancérigènes.
Je vais arrêter de tacler.
Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Nous l'a prévenu, c'était le pressing, et on se retrouve dans quelques instants avec la partition. Bon réveil.
6h20, votre partition Blin pour bien démarrer la semaine. Tiens, c'est une légende américaine que vous nous amenez ce matin. Il y a 62 ans exactement, Chubby Checker a donné naissance, sans le savoir d'ailleurs, et surtout sans l'avoir prémédité, à un mouvement qui est devenu planétaire.
Non seulement il s'agit d'une chanson Alexandre, mais aussi d'une danse. Let's do the twist. Le twist, ce nouveau genre musical qui émerge et explose dès 1960 avec donc la danse qui l'accompagne. Chubby Checker l'a décrit d'ailleurs très bien. Il dit: on pivote les hanches, on balance les bras dans la direction opposée et on tourne les pieds comme si on éteignait une cigarette. Autrement dit, vous pliez les genoux vous tortillez du bassin de gauche à droite. Pas compliqué.
Alors, ce nom de Chubby Checker, hein, il va rester à jamais associé au twist, mais il n'est quand même pas un pionnier du style, hein, du genre.
Non, bah, pas comme un Elvis Presley ou comme un Chuck Berry, et même s'il revendique la paternité du twist, puisque c'est lui qui en fait un succès planétaire, il faut savoir que Chubby Checker a grillé la politesse à un certain Hank Ballard. On va y venir.
Allez, on rembobine un peu. Retour à la fin des années 50. On est à Philadelphie. Celui qu'on appelle encore Ernest Evans travaille après l'école sur un marché aux volailles.
Le Fresh Farm Poultry, un marché italien installé sur la 9e rue. Et Ernest Evans passe son temps à divertir les clients en chantant et en dansant, comme Elvis Presley, par exemple. Les gens le surnomment Chubby en raison de son physique imposant. Grâce à ses prestations entre les étals, il se fait facilement remarquer et il arrive à décrocher une audition pour le show télé très populaire American Bandstand du célèbre Dick Clark. C'est à partir de ce moment-là qu'il se fait appeler très officiellement Chubby Checker. Chubby, qu'on peut donc traduire par joufflu. Et Checker, c'est le nom anglais du jeu de dames, un nom de scène en référence à l'une de ses idoles, le chanteur et pianiste Fats Domino. Domino comme le jeu des dominos, et le surnom Fats en raison de son poids. Voilà, Chubby Checker est né et c'est l'émission American Bandstand qui va le rendre célèbre.
Hottest dance sensation in the last four years, a thing called the twist. Ladies and gentlemen, here's Chubby Checker.
Alors, ce qu'on entend là, c'est un extrait de l'émission qui a été diffusée le 6 août 1960.
Voilà, et le monde découvre le twist sur son petit écran en noir et blanc. Les pas existaient déjà dans les ghettos, expliquera plus tard Chubby Checker. Mais comme il n'y avait aucune télé pour retransmettre le tout, personne ne savait comment danser le twist. Et ensuite, tout a changé, ça s'est propagé.
Alors, propager le twist, hein, c'est justement ce que n'est pas parvenu à faire l'auteur de la chanson Hank Ballard que vous évoquiez plus tôt.
Oui, la version d'Hank Ballard est sortie un an auparavant, mais n'a récolté qu'un petit succès d'estime. Avec son enregistrement de The Twist, Chubby Checker fait une entrée spectaculaire sur l'échiquier du rock. Quelques semaines après son passage à la télé, il se retrouve en tête des classements. La résonance est immense. Jusqu'en France, il réitère l'exploit avec la suite. C'est évidemment Let's Twist Again.
Et oui.
Let's Twist Again, aussi culte que The Twist, de classique absolu de Chubby Checker au début des années 60, tout au long de sa vie, il ne cessera de répéter que son twist a révolutionné la façon dont un homme et une femme bougent sur la musique. Chubby Checker fête ses 81 ans aujourd'hui.
Eh bien, merci pour ce twist, Ombline, pour bien démarrer le lundi en rythme, 6h25. Très bon réveil à tous. À suivre sur Europe 1, l'interview Écho. On va revenir sur la chute de Camailleux ce week-end, baissée de rideau définitif pour les plus de 500 boutiques de cette marque. Que s'est-il passé? Est-ce que l'histoire aurait pu s'écrire autrement? On sera avec le représentant de la Fédération de l'habillement à 6h40.
Et puis avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Et l'innovation avec Anis Mbida, on a inventé le fil dentaire électrique. A tout de suite.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une de l'actualité ce matin, Emmanuel Macron ordonne l'inspection de tous les câbles sous-marins français, internet et télécom, après le sabotage la semaine dernière des gazoducs russes en mer Baltique. Objectif, s'assurer de notre sécurité. Explication dans un instant avec Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1. C'est la rentrée pour les députés, débat brûlant en vue avec l'examen du projet de loi sur la réforme de l'assurance chômage. Le racisme anti-blanc est-il, oui ou non, une réalité aux Mureaux dans les Yvelines, ou un conseiller municipal de gauche a jeté l'éponge? Nous serons sur place dans un instant. Et puis au Brésil, le résultat des urnes ne donne pas la victoire à Lula dès le premier tour. L'ancien président de gauche, talonné par le président d'ultra-droite Jair Bolsonaro, second tour le 30 octobre prochain. Le journal de 6h30 avec Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est la grande peur des autorités françaises, le sabotage des câbles sous-marins qui nous permettent par exemple d'avoir internet ou la téléphonie mobile. Une inquiétude qui grandit depuis les explosions qui ont endommagé les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique la semaine dernière. Louis Dragnel, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron, vous nous le révélez ce matin, ordonne une inspection générale de ces réseaux de communication par lesquels transitent 90% des données mondiales.
Oui, le chef de l'État prend la menace très au sérieux, d'autant que la France, pays le plus connecté du continent, est le principal point d'entrée de l'Union européenne pour les flux de données. Alors, Emmanuel Macron a demandé aux responsables militaires, principalement de la Marine nationale, et aux chefs des services de renseignement, une inspection de toutes les infrastructures françaises. On compte une petite trentaine de mégacâbles, également une surveillance renforcée de ces fils qui mesurent des dizaines de milliers de kilomètres. Tout le défi est là car il est impossible de tout protéger. Heureusement, sur chaque câble, on trouve des capteurs ultra sensibles tous les kilomètres qui redynamisent le transit des flux de données, mais surtout capables de signaler toute vulnérabilité ou tout acte de sabotage. Pour que la France soit paralysée, il faudrait au moins que 4 ou 5 mégacâbles soient attaqués au même moment, un risque qui n'est pas pris à la légère. Plusieurs interlocuteurs d'Emmanuel Macron lui ont déjà suggéré une liste d'actions à mettre en place pour que les données les plus importantes continuent de circuler, comme les informations bancaires, les connexions des hôpitaux, des aéroports ou encore les systèmes de surveillance de l'eau potable. Et donc, en cas d'attaque de nos câbles, le chef de l'État pourrait décider par exemple l'arrêt de Netflix ou encore de YouTube qui consomme une bande passante considérable.
Info Europe 1 de Louis Dragnel. Notez que le gazoduc Nord Stream 2 ne fuit plus en mer Baltique. La pression de l'eau a plus ou moins fermé le gazoduc et le cercle de bulles formé au-dessus de Nord Stream 1 s'est considérablement réduit ce week-end.
6h33 sur Europe 1 avec le début d'une session parlementaire à haut risque pour le gouvernement.
Au menu, l'assurance chômage, le budget et puis la réforme la plus sensible, celle des retraites attendue avant la fin de l'hiver. Des textes contre lesquels les oppositions sont déjà vent debout face à un gouvernement qui n'exclut pas, lui, d'avoir recours au 49-3. Arthur Delaborde, l'attention est à son comble et le programme est chargé pour cette rentrée parlementaire. Tout commence cet après-midi avec un sujet international.
Oui, pas de projet de loi au programme pour le retour des députés au Palais Bourbon, mais une discussion au cours de laquelle la majorité compte pousser le RN et les filles à se positionner clairement sur Vladimir Poutine et les sanctions contre Moscou. Nous allons les renvoyer dans les cordes en rappelant leurs déclarations passées, assure un cadre de la Macronie. Un peu plus tard dans la journée débutera le débat sur le premier texte présenté par le gouvernement, la réforme de l'assurance chômage, avec une ambiance tendue en perspective puisqu'il s'agit de prolonger les règles controversées adoptées lors du précédent quinquennat. Celle-ci arrive à échéance à la fin du mois. Le gros morceau, ça sera la semaine prochaine avec l'examen des budgets de l'État et de la Sécurité sociale, les fameux PLF et PLFSS qui devraient enflammer les hémicycles tout au long de l'automne. Côté Sénat, c'est aussi la rentrée aujourd'hui avec en première lecture très vite le projet de loi sur les énergies renouvelables, puis un autre sur la sécurité. En tout cas, les parlementaires le savent, dès cette semaine, le rythme sera très élevé. Tous s'attendent à enchaîner les séances de nuit.
Arthur Delaborde.
En Martinique, la vente d'armes à feu est interdite dès aujourd'hui.
Annonce de Gérald Darmanin en visite dans le territoire ce week-end. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé le renfort de 30 gendarmes sur l'île d'ici 2023 et de 15 enquêteurs anti-stupéfiants avant la fin de l'année. D'ici 2024, 13 millions d'euros seront débloqués pour l'installation de radars afin d'améliorer la surveillance des côtes où les trafiquants débarquent leurs drogues.
Trop c'est trop, des insultes, des menaces de mort. Au Mureau, dans les Yvelines, un conseiller municipal se dit victime de racisme anti-blanc.
Le blanc quitte ma ville, ce sont des invectives comme celle-ci qui ont poussé Boris Venon à la démission. Depuis le début de son mandat, cet adjoint au maire dit avoir subi 11 agressions racistes et homophobes. La preuve, selon lui, du délitement du lien social dans sa ville et d'une hausse de l'insécurité. Qu'en dit la population ? Nina Droff est allée à sa rencontre pour Europe 1.
Dans l'avenue commerçante des Mureaux, de nombreux habitants ont bravé le vent pour venir faire leurs emplettes. Quand on leur parle de la démission de Boris Venon, plusieurs, comme Huguette et Fred, avouent se reconnaître dans les propos de l'adjoint.
Ça a changé, il y a moins de civisme.
C'est pas une passion de venir ici, personne ne se dit plus tard je voudrais habiter aux Mureaux. Non, on vit là parce qu'il faut travailler.
Alice, 68 ans, habite les Mureaux depuis qu'elle est toute petite. Elle ne se sent plus autant à l'aise dans sa ville qu'auparavant.
Des problèmes d'insécurité, des problèmes d'arnaque, de trafic, de la délinquance. Ça, je le vois, bien sûr, hein, parce que je ne comprends pas pourquoi à 10h, on voit des petits jeunes dans la rue.
Du côté de la mairie, on entend ces problèmes. Diéna Badiop est adjointe aux relations internationales. Elle appelle l'État à se mobiliser sur ces sujets.
On est face à de l'insécurité. Il y a nombre de victimes qui sont victimes de discrimination, de racisme, de violence. Ce n'est pas propre aux Mureaux et cela doit nous interroger collectivement. Ça se passe aussi par l'appui des services de l'État. Évidemment, il faut des réponses politiques.
L'adjointe réclame également une enquête sur les agressions subies par son collègue.
Reportage signé Nina Droff.
Nous avons vaincu le mensonge des sondages. Déclaration du président brésilien sortant, Jair Bolsonaro.
Il talonne l'ancien président de gauche Lula qui est arrivé en tête, mais avec seulement 5 points d'avance. 48 donc pour Lula, 48% des voix, 43% pour Bolsonaro. Écart beaucoup moins important que prévu, d'autant que les instituts de sondage donnaient Lula vainqueur dès le premier tour. Jean-Claude Gérès, vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Brésil. Malgré tout, peut-on dire que Lula a réussi son pari ?
Eh bien, pas vraiment. En début de soirée, les électeurs de Lula croyaient pourtant en la victoire de leur favori dès le premier tour. Mais l'euphorie a progressivement laissé place à une déception teintée d'amertume. C'est le cas de Raquel, professeure à l'université de Bahia.
Je pensais que Lula allait gagner au premier tour. Donc cette perspective d'un deuxième tour, c'est triste. C'est préoccupant car même si je crois qu'il va gagner au second tour, cette élection montre un peuple brésilien très mauvais.
Du côté des partisans de Bolsonaro, les résultats ont été accueillis avec une certaine satisfaction. Fabricio, la cinquantaine, m'a confié que ces résultats montraient une nouvelle fois le manque d'objectivité des instituts de sondage. Et il s'est dit assez confiant pour la suite. Le second tour se tiendra le 30 octobre. D'ici là, les candidats vont de nouveau sillonner le pays et tenter de convaincre les électeurs, notamment les 7% qui ont voté pour les autres candidats. A priori, Lula devrait bénéficier d'un report de voix favorable. Dans le cas contraire, ses électeurs seraient vraiment déçus.
Jean-Claude Gérès, correspondant d'Europe 1 à Salvador de Bahia au Brésil.
Et on termine ce journal en France avec une partie de pêche. On part à la pêche au Saint-Jacques.
Saint-Jacques, les Saint-Jacques, ouvrez-vous.
Ah oui, la campagne de pêche des coquilles Saint-Jacques s'ouvre ce matin. On aura la chanson toute la journée dans la tête.
Exactement.
Elle va durer jusqu'au 15 mai. On attend une saison exceptionnelle. Et sur les marchés, bah, vous devriez en trouver à moins de 6 euros pour commencer. Et au moment des fêtes, ce sera autour de 10 euros. Vous avez une recette de prédilection, vous, Alexandre ?
Ah, moi, je les adore en brochette.
Ah !
En brochette de Saint-Jacques,
c'est
ouais.
Pas mal. Ça.
Sur une plancha.
Eh ben, on prend.
Excellent.
Non, on est invité pour Noël, c'est réglé. Merci
voilà.
Beaucoup.
Merci à vous, Fanny Marceau. Très bon réveil. 6h38 sur Europe 1. Déstockage de dernière minute. Avant fermeture définitive, partout en France, ce samedi, la même scène, dans votre centre-ville peut-être, dans votre centre commercial, la fin de l'enseigne Camaïeu. Alors pourquoi cette chute de la marque ? Est-ce qu'elle était inévitable ? Dans un instant, Pierre Talaban de la Fédération de l'Habillement. A tout de suite.
Europe Matin, 6h41, le rappel de l'actualité, Alban Le Prince.
Les élections présidentielles au Brésil, il y aura finalement un second tour. L'ancien président Lula est arrivé en tête du scrutin avec 48,4% des voix contre 43,2% pour le président sortant Jair Bolsonaro. prochain vote le 30 octobre pour les départager. La rentrée parlementaire s'annonce musclée aujourd'hui avec en ouverture des débats sur la guerre en Ukraine suivi de l'examen de la réforme de l'assurance chômage qui doit durer jusqu'à mercredi. Et puis pas de coup de pouce pour le livret A, son taux n'augmentera pas le 1er novembre malgré l'inflation, c'est ce qu'annonce la Banque de France. En revanche, elle confirme déjà une hausse pour le 1er février avec un taux autour de 3%.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
La Caisse d'épargne vous présente l'interview éco. Caisse d'épargne, vous être utile.
Ce week-end a été marqué par la disparition d'une célèbre marque française de vêtements. Les 514 magasins Camaïeu ont mis la clé sous la porte. Samedi soir, laissant 2600 salariés sans emploi, d'autres chaînes françaises sont aussi en difficulté. Votre invité ce matin, Alexandre, Pierre Talamon, président de la Fédération nationale de l'habillement.
Bonjour Pierre Talamon.
Bonjour.
Ça commence par merci. Merci, cher client. Camaïeu, c'est fini. Voilà ce qu'on lit ce matin quand on va sur le site camaïeu.fr. Il y avait un autre chemin, selon vous, que la chute de Camaïeu?
Écoutez, d'abord, on a tous une pensée pour les 2600 salariés, les 508 boutiques qui viennent de fermer. Quitter une entreprise du secteur de la mode, c'est sur un plan, au-delà de la détresse financière que cela peut représenter, sur un plan affectif, humain, c'est très difficile parce que les équipes y sont très soudées dans un esprit quasi familial. Mmh. Donc sur le plan stratégique, moi je ne veux pas rentrer dans des considérations qui sont internes à l'entreprise. C'est une gestion qui était propre à l'entreprise. On sait qu'il y avait un endettement qui était très important, un parc de boutiques qui pouvait peut-être être sans doute rénové,
ouais, vieillissant,
ou
en tout cas
qui nécessitait des investissements à un moment donné. Mais nous sommes sur un marché qui est un marché milieu de gamme, qui représente à peu près 30% des ventes du marché textile habillement, et vous avez beaucoup, beaucoup de compétition,
ouais,
avec des concurrents qui sont très actifs.
Pierre Talamon, oui. 2600 employés sur le carreau. Le gouvernement a fait le choix de ne pas intervenir pour essayer de sauver Camaïeu. Ça vous a surpris? Ça vous a mis en colère?
Écoutez, je pense que la proposition suite au redressement judiciaire n'était sans doute pas suffisant. Il y avait un accompagnement, je crois, de 80 millions d'euros qui étaient demandés. Il y en a eu 40 pour retarder une dette fiscale. Voilà, je pense qu'à un moment donné, si vous voulez, sur le marché du textile, il faut réagir aussi à temps. Et quand on a des Zara, des H&M, des Uniqlo qui sont face à vous et qui ont une force de frappe qui est beaucoup plus importante,
oui,
ça devient difficile de résister, surtout après la pandémie, la crise sanitaire.
Vous parliez en effet du milieu de gamme, hein, Pierre Talamon. D'autres enseignes de ce secteur, de ce segment, sont aussi en difficulté. Célio, Naf, Sand Marina, hein, qui a été placé en redressement judiciaire il y a quelques jours seulement. C'est difficile aujourd'hui d'exister entre les géants du secteur que vous venez de citer, ou peut-être entre l'offre premium d'un côté et le discount de l'autre?
Mais c'est, vous savez, le marché de la... Déjà, il faut prendre en considération que le marché de la mode, sur un plan général, et ça, c'est l'Institut français de la mode qui nous donne les chiffres avec qui la FNH travaille, est en recul. Vous avez déjà, en juillet 2022, 14% de recul par rapport à juillet 21. Et sur les 7 premiers mois de l'année 2022, nous sommes qu'à une progression de 4,5%, sachant qu'en 2021, on avait déjà 2 mois de fermeture. Vous avez donc un contexte qui est morose. Ça n'est pas dû... Alors, on met souvent ce problème sur le e-commerce, mais il faut savoir que si le e-commerce a progressé de 22% en 2021 par rapport à 2019, on perd 18% sur le e-commerce sur, ouais, les 7 premiers mois de l'année.
Ouais.
Donc voilà, ne pas tout mettre non plus, j'entends ça trop souvent, sur le dos du e-commerce. Vous avez aussi le contexte inflationniste.
Alors,
et une situation internationale qui est extrêmement tendue. Il faut réinventer l'offre. Il faut que le secteur aussi du textile puisse trouver, en tout cas sa capacité à se réinventer par rapport à la fast fashion.
Alors, se réinventer comment? Parce que vous parliez du e-commerce il y a quelques jours, ici même sur Europe 1, on parlait de l'explosion du marché de la seconde main. Ça doit faire du mal également à toutes ces enseignes.
Non, je pense que ça marque une bienveillance entre les pratiques des détaillants multimarques. Hein, je vous rappelle que la FNH, c'est bon, le seul syndicat patronal qui représente les commerçants indépendants du secteur de l'habillement, 30 000 boutiques. Et ce marché de seconde main, si vous voulez, ça va dans le sens d'une éco-responsabilité. Mmh. Donc, ça va aussi dans le sens de, si vous voulez, cette trajectoire, en tout cas, de bienveillance et éco-responsable que le secteur textile doit se donner comme feuille de route. C'est-à-dire se réinventer, c'est aussi proposer une offre très différenciante, qualitative, au niveau créatif. Je vous rappelle qu'on vend des vêtements, donc c'est de la création.
Oui.
Au niveau de son originalité, de la particularité d'un produit, il faut s'inscrire aussi dans une temporalité qui soit cohérente, opposée à la fast fashion dont je viens de vous parler, qui voudrait proposer des articles en 3 jours et qui va en fait à l'opposé d'une consommation raisonnée et réfléchie.
La durabilité, oui.
Hein,
la, la durabilité, en effet, c'est la direction que vous devez prendre, en effet, dans l'industrie de l'habillement, Pierre Talamont, oui.
Oui, absolument. Il y a un signal vraiment, il y a un signal bienveillant à envoyer aux consommateurs. C'est, si vous voulez, moins de production, mais c'est aussi moins de consommation, enfin moins de consumérisme pour une consommation plus qualitative.
Merci. Merci bien. Merci Pierre Talamont. Le gouvernement, en un mot, va lancer effectivement ce mois-ci des assises du textile sous l'égide du ministère de l'écologie, fabricants et consommateurs pour réfléchir à des vêtements plus durables et moins carbonés. Merci Pierre Talamont, président de la Fédération nationale de l'habillement.
C'était l'interview éco avec la Caisse d'épargne. 3000 experts en région, aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Il est 6h49 sur Europe 1.
Europe Matin.
Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
Bonjour Anissé.
Bonjour à tous.
Et de l'innovation au service ce matin de l'hygiène dentaire. Après la brosse à dents, c'est désormais le fil dentaire qui passe en mode électrique.
Oui, et il était temps, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous utilisez du fil dentaire, mais il faut quand même avouer que c'est resté hyper primitif. Il faut couper la bonne longueur, c'est l'entortiller au bout de ses doigts, se contorsionner devant la glace pour faire passer entre les dents du fond. C'est une vraie galère. Maintenant, imaginez une sorte de brosse à dents électrique qui se termine en forme de U. Et entre les deux branches de ce U, il y a un morceau de fil dentaire qui est tendu. Vous avez l'image?
Oui.
Eh bien, il suffit ensuite de faire passer l'appareil tout autour de ses dents. Comme le fil est motorisé et qu'il vibre, il va glisser tout seul sur les mailles et déloger très facilement tout ce qui pourrait rester coincé. Donc, il n'y a plus besoin de se contorsionner.
Un fil dentaire entre un U qui tient tout droit, c'est ça? On garde toujours le même morceau de fil, du coup, on le change?
Si. En fait, toute la partie en U est amovible.
D'accord.
Donc, quand le fil est un petit peu trop fatigué, pof, on change la tête. Ça reste assez simple. C'est exactement comme les brosses à dents électriques. Il y a un autre modèle qui est capable, lui, de curer toutes les dents en même temps. Il ressemble là à une sorte de protège-dents avec une dizaine de fils dentaires à l'intérieur qui sont positionnés exactement aux bons emplacements. Bah, du coup, il suffit de mordre à l'intérieur pour racler tous les interstices dentaires en une seule fois. C'est un peu le principe des brosses à dents en 10 secondes, hein, vous savez, celles qui sont capables de nettoyer toutes les dents en même temps, sauf que là, bah, c'est plusieurs fils dentaires qui agissent ensemble.
Bon, on imagine que ça, c'est une fabrication sur mesure.
Oui. On commence par un scan ou un moulage de sa mâchoire. Comme ça, on s'assure que les fils tomberont pile poil entre les dents. Sinon, c'est vrai que ça n'aurait pas grand intérêt. Vous savez, tout le monde sait qu'il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour pendant...
3 minutes.
2 minutes. Mais on oublie qu'il faut aussi passer le fil dentaire tous les jours après le brossage du soir, ce qu'on est beaucoup moins nombreux à faire. Donc, c'est ce genre d'innovation qui pourrait nous inciter à nous curer les dents un petit peu plus souvent parce que c'est plus pratique et parce que c'est plus ludique. Les appareils devraient être commercialisés dans les semaines qui viennent par des startups comme Flouse ou Bliss Brush. Mais ça ne m'étonnerait pas que les géants du secteur s'y mettent aussi rapidement.
Merci Anissa Mbida, c'était l'innovation.
Europe Matin.
6h51, les titres de ce lundi matin à Albane Le Prince.
C'est la rentrée parlementaire aujourd'hui et elle s'annonce sous tension. Les députés débattront à partir de 16h sur la guerre en Ukraine et ses conséquences en France. Les élus commenceront ensuite l'examen de la réforme de l'assurance chômage. Plus de 37 000 cas de Covid hier, soit une hausse de près de 20% en une semaine. Nouvelle campagne de vaccination à partir d'aujourd'hui avec les derniers sérums développés par Pfizer et Moderna contre Omicron. Et puis il était maire adjoint, professeur et chef scout, un père de famille est jugé à la cour d'assises du Bas-Rhin à partir d'aujourd'hui pour 34 agressions sexuelles et 3 viols sur des fillettes.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe Matin.
La revue de presse internationale nous emmène ce matin en Belgique avec vous, Laura Van Lerberg. Bonjour.
Bonjour.
La presse belge s'inquiète du niveau record de l'inflation.
Le taux d'inflation belge, désormais à deux chiffres, précise le journal Le Soir, 11,27% en septembre, un niveau comparable à 1975, écrit-il. Une inflation due au prix élevé de l'énergie, note le journal La Libre Belgique. Il faut donc agir vite. Sur les prix du gaz et de l'électricité, souligne le quotidien L'Écho. Il rappelle, les entreprises ne sont pas épargnées. Dernier exemple en date, le numéro 1 de la grande distribution annonce une hausse de ses coûts de plus de 200 millions d'euros et des vices en bourse de plus de 23%. Signe annonciateur d'une récession, peut-on lire. Mais pour le journal Le Soir, celle qui encaisse les chocs de la crise, c'est la classe moyenne. Ses rangs les plus fragiles glissent vers la pauvreté, poursuit-il. Le journal L'Écho conclut, il est plus que temps de prendre des mesures fortes.
Nous sommes à présent au Maroc avec vous, Alexandre Blanc. La bataille diplomatique entre Rabat et Alger passe aussi par la culture.
Le ministère marocain de la Culture a ainsi annoncé avoir mis en demeure Adidas en lui demandant de retirer le maillot d'entraînement que l'équipementier a réalisé pour les footballeurs algériens. Le site Média 24 explique, ce maillot s'inspire du zellige, ces pièces de céramique colorée qui sont nées au Maroc il y a plus de 1000 ans et reprend des motifs qui sont originaires de Fès. Un cas d'appropriation culturelle pour le journal L'Économiste, une tentative de vol selon Maroc Hebdo qui accuse Alger de vouloir s'accaparer une composante de l'histoire marocaine. Quelques titres critiquent cependant cette mise en demeure. Le Maroc prend le risque de se ridiculiser, estime notamment le Desk, pour qui les chances qu'Adidas réponde favorablement à sa demande sont très minces.
Et nous sommes enfin au Japon avec vous Bernard Delattre. Qu'est-ce qui fait la une de la presse japonaise ce lundi ?
La normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et le Japon. Il y a 50 ans, très exactement, mais note le Japan Times, cet anniversaire a été célébré en catimini. Il faut dire que début août, lors de la venue de Nancy Pelosi à Taïwan, 5 missiles chinois ont été tirés en direction de l'archipel. En 1972, la Chine a signé un traité d'amitié avec le Japon, mais en 2022, elle nous considère comme un pays ennemi, s'énerve le quotidien conservateur Yomiuri. Nous devons nous réarmer face à ce voisin devenu si agressif, ajoute le journal nationaliste Sankei. Le quotidien financier Nikkei, lui, prône la retenue, la Chine étant le premier partenaire commercial du Japon. Le dialogue, plutôt que la course aux armements, c'est aussi l'avis des journaux de gauche Asahi et Mainichi. Pour autant, ils déplorent, je cite, « les silences de Tokyo, business oblige » à propos de la répression des Ouïghours ou de Hong Kong.
Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants 6h54 sur Europe 1. Dans un instant, Dimitri Palenko, à tout de suite.
Europe Matin.
6h57, excellente matinée à l'écoute d'Europe 1.
Dimitri Palenko est avec vous, bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin.
Bonjour.